18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Vous savez, dans tous les médias, vous entendez parler, ça y est, du best-of, etc. Nous, non, on fait une bonne dernière, puis après, on se repose un peu. Je ne vais pas vous ressasser le best-of, ce sera dans le grand bêtisier de fin d'année. C'est encore mieux, ça a plus de saveur et ça a plus de consistance. En tous les cas, à chaque fois, on se dit, dans cette émission, on va essayer de prendre un peu de temps comme ça pour dire, ça y est, là, c'est la fin. Mais non, à chaque fois, l'actu sportive nous rattrape et croyez-moi, elle est très, très riche. Et bien entendu, ce soir, l'émission, je la fais avec Fodil, mais surtout, le retour de notre grand druide jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM.
Allez, on va commencer d'abord par le coach. Il revient tout bronzé, en pleine forme, le coach. Comment vas-tu?
Ça va, Mohan. Mais le druide, c'est toi, Mohan, tu t'es trompé. C'est toi, le druide. Le druide, c'est toi qui sécrète cette potion magique
oui.
Qui nous fait bouger. Le fait que t'as vu, on est revenu, on est de retour.
Bah, mine de rien, c'est un constat que je fais, Nasser. C'est-à-dire que tu es parti un bout de temps, mais ça t'a permis de découvrir l'Algérie de long en large, comme on dit, et de voir aussi quelques événements sportifs. Forcément, t'as fait un petit voyage du côté d'Oran pour voir quelques épreuves des Jeux méditerranéens.
Ouais. Oui, c'est pas les vacances, j'ai la dune. C'était des choses que je devais faire obligatoirement.
Oui.
Bon, après, on y a mis les vacances à l'intérieur, c'est sûr. Mais ouais, bien sûr, je ne pouvais ne pas être présent lors des Jeux méditerranéens. Parce que, il y a mon ami Desrois qui est là-bas, qui était lui responsable. Et franchement, je l'ai félicité vraiment sur place, parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Mais quand t'es sur place, c'est pas comme quand t'es à Paris.
D'accord.
Quand t'es sur place, tu vois autrement. Mais bon. Et j'ai pu voir vraiment le travail qui a été fait et la réussite complète, Et Desrois me dit qu'il a été félicité par les États-Unis, L'ambassadrice des États-Unis l'a félicité chaleureusement devant tout le monde, pour te montrer le niveau qu'il y a. Parce que quand même, au-delà des, t'as vu, quand t'as les JO et tout, t'as là.
Oui.
Quand tu vois les Jeux méditerranéens, c'est quand même aussi ça, les activités, la multitude d'activités qu'il y a, surtout Oran, c'était impressionnant. Et comme je te dis, j'ai visité le complexe sportif d'Oran, le stade, le gymnase et la piscine, magnifique. Tu te dis, en Algérie, en fin de compte, quand tu veux, tu peux.
Mais c'est ça.
C'est ça que j'ai compris. Oui. J'ai regardé, en fin de compte, quand on peut,
quand on veut,
on peut faire. Oui. Ah ben, faut faire maintenant. Parce qu'il est là le problème, il n'est pas ailleurs. Donc si on ne fait pas, c'est qu'on ne le veut pas.
Ouais.
Mais c'est exactement ce que je te dis. Il n'y a pas. Et voilà, j'ai passé 3-4 jours magnifiques. C'était super magnifique.
Là, on a parti de toute façon, tout à l'heure, on va aborder un petit peu le volet hand. Mais tu as eu la chance d'assister à la finale de ces jeux entre l'Espagne, qui est une très très grande nation de handball, il ne faut pas l'oublier. L'Espagne fait partie du top 3 mondial. Et puis l'Égypte aussi. Qui revient en force. D'ailleurs, ils nous ont mis une telle tannée à l'équipe d'Algérie qu'on se dit qu'ils nous ont fait reculer de 50 ans en arrière.
Ouais, moi j'ai vu une très très grande équipe d'Égypte. C'est pas peu de le dire. Il faut savoir qu'ils ont mené tout le match, mais avec des différences incroyables. Des combinaisons, des mises en place sur le jeu qui étaient impressionnantes. On n'a jamais vu l'Espagne, mais comme l'Espagne s'accrochait derrière à chaque fois, oui. Il était toujours à 2 points, 1 point, 2 points. Et quand arrivé dans le half-time, comme on dit,
oui.
À la dernière minute, et ils ont égalisé, ils ont mis le dernier but. Et quand ils ont, alors j'ai reçu, parce qu'ils ont égalisé l'Égypte, moi j'ai cru qu'ils avaient égalisé, et je savais qu'ils avaient égalisé.
Oui.
Et je vois le match, il s'arrête, et d'un coup je vois les Espagnols s'embrasser. Je dis, bon, et c'est Desrois qui m'a dit, en fin de compte, ils ont marqué exactement les Égyptiens, et le but a été refusé. Et la raison, c'est pas.
Ah!
Tu vois? Polémique, ça encore.
Très bien.
Et c'était vraiment impressionnant de voir ça, de dire punaise. Et parce que moi j'ai vu une belle équipe, mais vraiment une belle, belle équipe d'Égypte. Il y avait des très, très, très bons joueurs. Après l'Algérie, on l'a vu, nous aussi, on est loin. C'est les guerres internes qu'il y a, comme on entend un peu partout.
Oui, oui, oui.
Je me disais qu'il y avait quand même manqué 5-6 grands titulaires d'équipe nationale.
Ouais, et même là, ça se voyait, même au niveau du championnat d'Afrique, on finit 5e. C'est la première fois que.
On passe pas, je sais pas du monde.
Oui, mais c'est ric-rac. Franchement, c'est tiré par les cheveux. En tous les cas, on va, tout au long de cette émission, coach, parler un peu de cette actu sportive qui est très chargée, puisque j'ai même demandé à notre ami Fodil de travailler à la fois sur le mercato, mais également sur d'abord ces grands événements de l'année. Je vais revenir sans plus tarder sur cette finale de la CAN féminine, car il faut en parler, il faut malgré tout féliciter Reynald Pedros, malgré la défaite. Attention, c'est quand même l'Afrique du Sud, c'est une très grande nation du football féminin, et puis 2 buts à 1 en finale, malgré tout, chapeau à cette équipe marocaine. On n'aurait jamais parié sur une telle sélection il y a seulement quelques années en arrière.
Jusqu'à 20h, Foot en Sport, sur Beurre FM.
Alors Fodil, justement, je viens vers toi en parlant de cette finale, de la CAN. Vainqueur, l'Afrique du Sud. Ça veut dire que déjà, l'Afrique du Sud et le Maroc iront du monde.
C'est une bonne nouvelle, que ce soit pour le football africain féminin, en l'occurrence. Et il ne faut pas oublier que le Maroc a réussi à battre le Nigeria, qui n'est pas une équipe facile à manier. On tire le chapeau aussi à Reynald Pedros, parce que c'est un entraîneur que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Il a entraîné l'Olympique, le Lyonnais pour 73 matchs. Écoute bien, c'est 67 victoires, 5 matchs nuls et une seule petite défaite. Et tout le mérite lui revient. Il a réussi à former une équipe. L'investissement aussi du Maroc, que ce soit pour le football africain, a porté ses fruits. Et la preuve, ils sont au mondial. C'est une très bonne nouvelle, que ce soit pour l'Afrique du Sud et pour le Maroc et pour tout le football africain féminin.
Mais, je vais revenir vers Nasser en tant qu'entraîneur. Nasser, ces dernières années, l'évolution du football marocain, que ce soit en sélection, que ce soit au niveau du CHAN qu'il gagne deux fois de suite, l'équipe féminine qui arrive en finale de la CAN, les clubs qui gagnent la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, enfin bref, mine de rien, mais au contraire de l'Algérie qui était censée, après 2019, gagner et monter d'un cran par rapport à la génération qu'on a eue, on a plutôt régressé. À l'inverse, le Maroc, lui, est monté crescendo.
Oui, on peut dire ça, mais il y a des raisons. Pour moi, la première raison, ce sont les installations. Moi, j'ai été 8-9 mois là-bas, et j'ai vu des installations top niveau. Mais quand je dis top niveau, c'est j'ai joué sur des matchs, sur des terrains, oulala, des stades comme le Stade de France. Hein. Et eux, c'est banal. Hein. Là-bas, le stade d'Agadir est comme le Stade de France.
Oui, d'accord,
c'est banal pour eux. Les infrastructures qu'ils ont autour permettent à l'activité de grandir toute seule, de fait. Mmh. En plus, ils ont compris, eux, les Marocains, depuis longtemps, que le sport féminin doit devenir une priorité parce qu'il l'est dans le sport mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte plus des clubs s'ils ne présentent pas une équipe féminine. Tu vois, dans des clubs. Là, on le fait en Algérie maintenant, à partir de cette année. Là, j'ai vu
oui,
ça.
Oui, d'accord.
Il faut des équipes féminines reviennent dans le championnat. Mais on a loupé des générations de joueuses.
Tout à fait.
Moi, j'étais présent quand on a liquidé l'équipe de la GSK féminine, sur un coup de tête. Hein. Je ne veux pas citer les noms.
Oui.
Et on l'a liquidé en 2 secondes, comme ça. Non, on arrête. Comment tu arrêtes? Une structure comme ça, féminine, qui est? Non. Donc, toutes les filles ou les femmes qui avaient envie de faire du football, on les a mis, mis à part l'équipe d'Arcbou, qui nous expliquera, où je connais bien le président, et qui, lui, a su récupérer les gens qu'il faudrait. Après, on est au début du football féminin, donc début du sport. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui construisent comme ça. C'est un peu, t'as vu, c'est pas encore le top. T'as vu, la France, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle s'y est mis. Et là, elle arrive parce qu'elle veut gagner des titres vite. Ce qui a fait Lyon pendant des années, comme il n'y avait personne sur le terrain, elle a construit vite une équipe. Et t'as vu, PSG a compris.
Oui.
Ils ont construit une équipe avec eux et ils font des Ligues des Champions, des finales entre eux. Ils prennent des titres.
Non, mais parce que hier, quand j'ai regardé le match, j'ai été agréablement surpris par l'équipe marocaine. Mais ça joue au ballon. Hein. Ouais. Ah, franchement, c'était pas désagréable.
C'est ça, c'est pas mal. Ouais.
Je me suis dit.
On a juste un problème dans le football féminin, c'est le gardien de but.
Oui.
Ils ont encore des gants en peau de pêche. Mais ça grandit. Moi, je le vois parce qu'à travers la formation où je suis à Paris, je vois plein de filles qui viennent et plein de sélection qui arrive, et je vois quand même le niveau, je vois des filles, c'est plus des filles, c'est des jeunes garçons.
Ouais.
Et comment que ça joue, et comment qu'elles sont agressives, et sur le plan technique, elles progressent. Hein. C'est ça. Progresse.
Mais des fois, je vois des gestes et je me dis, mince.
Voilà. C'est ça.
Ce serait la honte pour moi si elle me fout un petit pont, mais ça serait capable de me le mettre. Quoi.
Ah oui, c'est sûr.
Hein. Ouais, mais c'est très simple aussi. Quand il y a un investissement derrière, automatiquement, il faut s'attendre à un résultat. Nous, en Algérie, notre problème, c'est que les clubs n'investissent même pas. Déjà, il faut qu'ils commencent à investir sur des jeunes joueurs, sur la formation, et ensuite en inculquant bien sûr le football féminin. Mais nous, en Algérie, on ne veut pas faire ça. Bien au contraire, les grands clubs algériens, maintenant, ils préfèrent investir. Avec des joueurs, des grands noms du championnat algérien, ils préfèrent leur donner des milliards ou des millions, et automatiquement, il n'y a pas un investissement qui revient derrière. C'est ça.
Oui, mais parce que là, contrairement à ce qu'on peut dire ici et là, c'est vrai qu'il y a. Aujourd'hui, on aime bien donner la priorité toujours à l'équipe A, tout en sachant que si tu ne fais pas la base, à savoir tes mômes, tu ne peux pas développer ton football. D'où aujourd'hui. Moi, quand je regarde, même chez les filles, on va essayer de chercher au sein de l'immigration, parce qu'on se dit que en Europe, il y a des clubs, il y a des fédérations, il y a des structures qui permettent l'épanouissement d'un jeune ou d'une jeune. Et je sais que dans l'équipe marocaine, on a récupéré également beaucoup de filles issues de l'immigration.
Bien sûr.
Il faut le savoir, hein, des marocaines de Belgique, de France, des Pays-Bas. On voit quand même. Les filles athlétiques, etc.
Là, c'est compliqué de parler d'aujourd'hui de l'élan du football ou du sport féminin, parce que c'est nouveau, c'est plus que nouveau. Ouais. Aujourd'hui, c'est les équipes qui se structurent le mieux, qui ont des équipements déjà. Qui a les équipements que le Marocain ? Personne là en Afrique.
Ouais. C'est l'Égypte.
Ouais, peut-être l'Égypte un petit peu. Ouais. Bah, l'Égypte, le temps qu'elle sorte un peu de son obscurité, va arriver, bien sûr qu'elle va arriver. Bon, on sait pertinemment que tous ces pays-là vont revenir, l'Algérie va revenir rapidement, parce qu'elle a la qualité.
Ouais, mais revenir, il faut qu'il y ait des institutions qui suivent derrière. Mais nous, on ne les a pas.
Non, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le règlement. Des équipes, t'imposes ces championnats. Donc, de fait, t'es obligé de les aligner. C'est comme l'histoire des clubs, là, qui payent pas les joueurs. C'est la FIFA qui impose. Maintenant, si tu payes pas, tu ne joues pas les coupes, c'est fini. Oui. Donc, voyez, le cap est passé. C'est-à-dire que t'es obligé d'y aller. Sinon, tu vas pas sur ces supporters qui vont bien s'occuper de toi.
Ah, carrément.
Ah oui, si tu Coupe d'Afrique, tu joues pas la Coupe d'Afrique. Comment tu fais, toi? Ouais. Comment tu vas faire? Là, la pression, ils la mettent là. Comme ils ont mis pour le sport féminin, ils ont raison. Ils l'ont mis vraiment. Là, maintenant, il vous faut des équipes féminines dans tous les championnats. Il vous en faut une, deux, trois niveaux, quatre niveaux, peu importe, débrouillez-vous. En France, on le sait, on est obligé, nous, depuis quelques années, d'avoir une équipe féminine chez nous aujourd'hui.
Oui, sauf que la question, coach, là, pour l'instant, on sait qu'ils sont obligés de la faire. Ouais. Ils sont obligés de créer ces équipes féminines.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'ils suivent derrière? Parce que pour l'instant, on n'entend pas parler, que ce soit ni.
C'est obligé, c'est au championnat d'Algérie, si tu ne mets pas ta équipe féminine, tu sens.
Oui, mais est-ce que. Bon, prenons un exemple. Est-ce que la JSK, par exemple, l'MCA ou l'USMA, ou le CRB Blues Dead, on n'entend pas parler de ça pour l'instant?
Si,
on ne les voit pas.
Ah, si.
On ne les voit pas. Même la presse algérienne, on ne parle même pas.
Si. Surtout la presse algérienne, on va attendre un peu de temps avant d'en parler. Ah non, c'est une obligation aujourd'hui d'avoir.
Je trouve dommage alors.
Oui.
Donc c'est dommage de ne pas parler de ça.
Elles sont en place, les équipes sont en place, c'est une obligation. Il y a même Mozambique qui est venu là, il a parlé de ça, du football féminin, il leur a parlé. Il leur a dit c'est une obligation de l'avenir pour nous, et le football féminin.
En tout cas, moi je suis l'actualité de la JSK avec leur page Facebook et tout. J'ai jamais vu ni entendu parler de ça pour l'instant, espérant qu'ils vont créer cette équipe.
Très bien, allez,
on continue. C'est pas espérons, c'est pas espérons.
Oui, je sais que c'est une obligation.
C'est un règlement, tu l'as dans ton règlement.
Oui, ça sinon, je le sais, mais j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris, mais est-ce qu'ils vont suivre derrière? Parce que pour l'instant, on ne voit pas d'investissement. Oui, je sais qu'ils doivent suivre, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout.
S'ils ne vont pas, ils ne commencent pas le championnat.
Ah, t'as vu?
On verra.
Ah, ça, c'est le règlement.
Ah, non, mais c'est ça l'histoire. Hein.
Oui, je sais.
Ben, c'est
on verra.
On continue.
Les connaissant, on verra.
Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
L'autre nouvelle, messieurs, on passe du foot féminin, on passe à l'athlétisme. Il y a eu les championnats du monde en Oregon, d'ailleurs je crois qu'ils se sont terminés aujourd'hui même. Chez les athlètes du Maghreb en général, on a deux médaillés. 3000 mètres steeple pour le Marocain Sofiane El Bakkali, mais ça je le savais, le garçon, je le suis depuis plusieurs années, il est très 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 fort, et c'est vrai que l'école marocaine a réussi à mettre carrément à genoux l'école kenyane.
Exactement, mais pourquoi Il y a des raisons qui suivent derrière, et comme Coach l'avait expliqué tout à l'heure, bah, les autorités marocaines, ils ont bien compris que pour réussir, pour avoir un résultat au niveau sportif, il faut investir. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont investi, et automatiquement, les résultats suivent derrière. Je pense que Coach aussi serait d'accord.
Mais tu sais, Nasser, à l'époque, au Maroc, ils ont, du côté du Ifrane, il me semble, hein, c'est un lieu de haute altitude où les sportifs marocains de très haut niveau vont se préparer. Je me rappelle de l'époque de Hichem El Guerrouj, c'est-à-dire Ouattara Hichem El Guerrouj, les Khalid Sika, etc. Et tout, ils se préparaient là-bas. Donc, en fait, déjà, il y avait une très grande école marocaine, mais on l'a vu ces dernières années, à l'image de l'Algérie, il y a aussi une chute. Le demi-fond était dominé par le Maroc et l'Algérie, c'est-à-dire le 800, le 1500, 3000, 5000 jusqu'au 10000, c'était carrément l'apanage de l'Algérie et du Maroc. Et puis, les autres pays africains ont travaillé. Ah non, attends, ça, j'ai suivi ça.
Oui, moi aussi.
Les autres pays africains ont travaillé. Il y a eu l'émergence à partir du 10000, du 5000, du 10000 des Éthiopiens, des Ougandais, des Kenyans. Et là, ça a chamboulé la donne, et on le voit à travers les résultats. Par exemple, on a perdu pied beaucoup sur le 800 et le 1500. D'ailleurs, on l'avait à travers les résultats. Le 800 a été remporté par le Kenyan Korir devant un Algérien inconnu. Je t'assure, Nasser, et là, je le dis en toute sincérité devant tout le monde, je ne connaissais pas Jamel Sidjati avant les demi-finales du 800 mètres, et l'Algérie a placé deux garçons en finale qui sortent de nulle part, et Nasser, ils n'ont que 23 ans. Dont l'un a fini deuxième, il a eu à un moment donné, je crois qu'il était sixième, j'ai suivi la course, Nasser, il a eu un finish phénoménal dans les derniers 100 mètres, et il était presque collé au pied du vainqueur. C'est un petit peu l'histoire de Guérin Djeber qui se rappelle par rapport à 2012 ici à Saint-Denis au Stade de France.
Ouais, oui, j'entends bien ce que tu dis, c'est exactement ça, mais il faut bien comprendre quand même que le demi-fond et le fond en athlétisme est dominé depuis 25-30 ans par le Kenyan et tous ces pays-là africains. Ouais. C'est des empruntements sur des sportifs qu'ont été les Marocains et les Algériens, certains, comme tu as dit là, a fini deuxième, c'est du fulgurant, j'appelle ça des fulgurances du
moment.
C'est
ça, absolument.
Dans cette année. Le problème, c'est que nous, on construit très peu notre fond, parce que l'athlétisme chez nous, on n'en parle pas, je n'en ai pas.
Ben oui, ça me tue.
Parce que les infrastructures ne sont pas là, mais moi, je me rappelle bien, un jour, Guirou me parlait de ça. Il me dit, je trouve toujours scandaleux que le demi-fond et le fond algérien et marocain ne brillent pas sur le toit du monde, comme la boxe.
Guirou l'a
compris. Comment se dit que vous n'avez pas de boxeur qui, normalement, vous êtes les champions de toutes ces dominantes-là, de ces épreuves-là, et vous n'y êtes pas? Bah, t'as vu, d'un coup, t'en as sorti un, je sais pas d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, il finit deuxième du championnat du monde. On fait comment la prise en charge de lui? Il n'existe pas.
J'ai regardé son CV, je me dis, mais je ne le connais pas. Voilà. Je ne l'ai pas suivi dans les grands meetings, etc. Et tout. Donc j'ai été un peu surpris. En tout cas, félicitations. Sofiane El Bakkali, médaille d'or du 3000 mètres steeple.
Moula aussi, cinquième.
Moula qui a fini cinquième du 800. Et Jamel Sidjati, donc deuxième vice-champion du monde du 800 mètres. Donc bravo à ces garçons et aussi bravo à l'Afrique, hein, parce que du coup, c'est l'Afrique qui a dominé. Ces épreuves. On marque une première pause, on se retrouve dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Allez, on revient sur le plateau de Foot de sport et puis on va commencer à parler mercato. On va s'amuser là. On va s'amuser et on va d'abord. Ce qu'on disait la semaine dernière, Fodil, c'était une hypothèse, mais qui n'était pas validée. Là, enfin, contrat de 4 ans pour Ilyes Chetti, Sco d'Angers.
Ah, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Je suis vraiment très content parce que c'est un club qui vient de l'US Chaouia, qui a rejoint la JSK. Ensuite, la JSK l'a confirmé, il est parti en Tunisie. Et là, espérons, en plus, avec la Coupe arabe qui nous a sorti, même si au début, il était un peu timide, mais au fur et à mesure du temps, il est monté en puissance, surtout avec la finale qu'il a, la copie qu'il a rendue pendant la finale face à la Tunisie. C'est un joueur qui peut confirmer, c'est un joueur que nous, nous avons besoin en équipe nationale, parce que il faut le rappeler que nous n'avons pas de doublure pour Rami Ben Sebaini. Roulem, pour l'instant, il n'est pas très en forme à Naples, et on ne sait même pas s'il va être reconduit. Et c'est une bonne nouvelle pour la sélection algérienne, c'est une bonne nouvelle pour Jamel Belmadi.
Mais sauf que, alors Nasser, toi, tu vois, ce garçon, voilà, ça fait plaisir, un garçon qui émerge quand même, finalement, et il a franchi le pas de rejoindre la Ligue 1, donc c'est une bonne nouvelle aussi.
Oui, bien sûr. Mais il y a surtout, j'ai vu que l'Espérance de Tunis est fait un blocage. Ils sont pas d'accord.
Mais apparemment, Elias.
Ils disent qu'il a encore.
Il n'a pas été payé.
Il a eu. Ouais, mais eux ils disent que le contrat a été.
Unilatéralement. Non, mais je pense qu'il est tunisien. Voulait récupérer du fric sur son dos. Ils l'ont pas payé. Donc, à partir du moment où, pendant 4 mois, tu connais le règlement, passer 4 mois sans être payé.
Mais ça va mettre combien de temps, ça? Combien de temps on va mettre l'affaire?
Non, mais là, de toute façon.
Tu vois, le Tunisien, surtout les Tunisiens, l'Espérance de Tunis, tu connais pas l'Espérance de Tunis?
Oui, je ne vais pas raconter.
Ouais. Mais bon, en général, ils sont dans les petits papiers de la FIFA et même de la CAF. Au-delà de ça, c'est bien, c'est un bon parcours. Et comme tous ces parcours-là, de ces garçons-là, qui arrivent dans les clubs. Comme ça, comme Angers, on aurait cru que c'était Saïd qui était derrière.
Ben Chaban
qui était derrière, mais j'ai l'impression que non. Et il vient, voilà.
Il n'y a pas l'arrivée de Rantal Yahyas à Angers.
Si, il a confirmé sa venue aussi.
Ah, c'est bien ce qui me semblait.
Ouais. Mais il est pas parti avec Moscou.
Non, il va rejoindre Angers, c'est officiel. Il l'avait même annoncé sur les réseaux sociaux.
D'accord. Mais à la base, il est parti de Moscou, il s'occupait de la formation.
D'accord.
Le petit Chetti, ouais, je connais bien. C'est un petit garçon, bah, matin, il va rentrer dans la cour des grands. Et c'est toujours le même problème quand on parle de ces garçons-là, quand ils arrivent, quand ils sont formés en Algérie, où ils n'ont eu aucune formation, qu'ils arrivent avec des qualités monstrueuses, mais qui, dès qu'il est sur la répétition, il est sur les efforts, il est sur de la haute intensité, ça explose tout de suite. J'espère que lui, il n'aura pas les problèmes d'Atal. Oui. Sinon, tu vas te retrouver dans le même problème, la même problématique. Hein. Surtout même pas, parce que lui, il est à gauche en plus. Hein.
Oui, c'est ça, il est à gauche.
Ouais. Bah, oui, bah, sur ces postes-là, très offensif. Ouais. Mais bon, on l'a vu à l'Espérance de Tunis, c'est combien? C'est 30 matchs là-bas en Tunisie, même pas
30 matchs avec, avec 30 matchs avec la Ligue des Champions et la Coupe de la Tunisie aussi.
Voilà, c'est ça. Et là, ici, tu as passé à 90, tu vois que c'est pas la même. Mais la vitesse, surtout la vitesse, l'intensité, on connaît le joueur algérien, on connaît ses problématiques physiques, on le sait qu'il était. Mais après, j'ai pas eu le. Autant on les avait avec Atal, ce qu'on avait vu
un peu
parcours, autant lui, on les a pas pour l'instant. Et à l'Espérance, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Il était bon pendant l'année, là?
Il était très bon, sauf qu'il avait quelques problèmes avec son entraîneur, qui lui a coûté sa place des titulaires, mais au fur et à mesure du temps, il est remonté en progression, il a repris sa place, et il nous a sorti aussi une très très bonne coupe arabe, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit face à la Tunisie ou face au Maroc, il était extraordinaire sur son côté.
Ça n'engage que toi, l'extraordinaire.
Je trouve qu'il était très bon parce que nous avons.
Tout le monde a parlé de l'arrière gauche chez Thi là-bas pendant la Coupe Arabe. On a parlé. Moi aussi, je l'ai vu. Ouais. Et moi, je l'avais déjà vu à la JSK, je l'avais vu sur des matchs, et j'avais dit depuis longtemps. Il était très intéressant. Il est un petit peu comme Atal. Hein.
D'accord.
C'est un garçon qui vient prendre le couloir et il y va plein pot. Hein.
Et c'est le travail aussi de Chérif Millel parce que c'est lui qui l'a recruté. De l'US Chaouia.
Il fallait le chercher à l'US Chaouia.
Oh, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a été cherché.
Oui,
c'est pas lui. C'est lui qui a fait signer, sûrement.
Après.
Il était pas cher. Ouais. Il ne veut pas être cher, là.
Ah, non, pour les postes, je pense
surtout
pas.
Ouais. Ça.
Alors, juste à côté, puisqu'on va rester, Nasser, avec Fadil, on avait parlé la semaine dernière. C'est enfin, et on a applaudi des deux mains, des deux pieds, deux années supplémentaires pour Belaïli à Brest. Et là, on s'est dit, c'est bon. Plutôt que d'essayer de viser encore l'argent du Moyen-Orient, il a décidé de rester en Ligue 1. Et on l'a vu sur la fin, physiquement, je n'ai pas reconnu le Belaïli du mois de janvier de la fin d'année, comment il l'a fait travailler physiquement là-bas. À Brest.
Oui. Mais je me pose la question encore pourquoi, comment ça se fait. Je connaissant le garçon et voyant un peu son parcours. Ce sont quand même des professionnels, ils jouent pour l'argent, beaucoup d'argent, et peut-être s'y plaît. tout simplement.
Apparemment, il s'y plaît, parce que là, déjà, même en match de préparation, il marque et tout. Je veux dire que le garçon, déjà, visiblement, il...
Il a des qualités, de toute façon, il a des qualités, mais après, bon, il est à Brest, hein. Il est à Brest.
Ouais, mais c'est mieux, il est loin là-bas, c'est bon, Nasser. Il ne faut pas qu'il soit ici à...
Il a quel âge, là ? Il a quel âge ?
30 ans.
30 ans, Belaïli, quand même, Nasser.
30 ans.
Ouais. Ouais, il fait 32.
Ouais. Tu sais à quoi je pense ? Parce que l'histoire de... Comment il s'appelle, de Youssef Attal, c'est la Côte d'Azur. Hein. Ben voilà.
Ça aussi, il faut l'intégrer, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais. Et là, tu as la Côte d'Opale, de l'autre côté.
Non, c'est l'Armorique. À part les flibustiers, il n'y a personne là-bas. Hein.
Il y a les phares.
Oui.
Tu peux aller voir. Non, mais Belaïli, c'est bien. Bon, après, il y a des raisons pour ça, pour qu'il vienne signer 2 ans à Brest, en sachant qu'il y a même des équipes dans le monde du golf qui devraient le solliciter. À 30 ans, on est dans des choix de carrière, des choix de financiers quand même. On n'est pas dans des...
Le projet sportif. Bah
ben oui, ça n'existe pas, ça n'existe plus à cet âge-là. Et on va voir un peu ce que ça donne. Hein.
Est-ce qu'il n'a pas peur de vivre la même mésaventure que Bardet Bonja, qui est resté au Qatar, et que Ben Madi n'appelle plus en sélection?
Sur quel plan?
Sur le plan
financier, non?
Il a gagné
beaucoup.
Oui, bien sûr.
Il a fait ce qu'il avait à faire.
Oui, il a fait son beurre. Oui.
Sur le plan financier, sur le plan sportif. Mais bon, ils le savent, les joueurs. Hein. Ils savent qu'ils font des options, des choix sur des clubs et pas sur d'autres, parce qu'il y a des raisons. Et les raisons financières, c'est les choses les plus importantes. Nous, on regarde le sportif, l'aspect de ce qu'on voit, le buteur. Mais ces garçons-là, non, ils sont dans le business. On est dans le business. Celui qui paye, il va jouer. Bonja, il a fait les choix financiers qui sont très, très, très importants. Hein. Je pense. Hein. Je pense sérieusement. Sinon, il aurait pu signer. Il a eu des touches. Je suis persuadé qu'il a eu des touches.
Absolument, oui.
Mais après, tu as vu les gens. Trouver un neuf, c'est pas évident. Hein.
Moi, je pense qu'il n'a pas peur parce que Jamel Belmadi a toujours convoqué des joueurs qui évoluent au Qatar. Et je pense que l'exception ne fait pas la règle. Même Youssef Belaïli, s'il n'était pas reparti au Qatar, je pense que Jamel Belmadi l'aurait reconvoqué. Parce qu'il a sa place en équipe nationale. Il ne faut pas l'oublier que nous n'avons pas une doublure à son poste. On a un Bilal Brahimi qui commence à émerger. Et Jamel Belaïli, c'est une pièce maîtresse de l'échiquier de Jamel Belmadi. C'est quelqu'un de très important, que ce soit offensivement et défensivement. Et c'est le moment aussi de confirmer son talent. C'est pour ça qu'il est resté à Brest. Parce qu'au fur et à mesure de sa carrière, il n'est jamais resté 2 ans dans un club. Il l'avait fait avec l'USMA, ça s'est super bien passé. Il l'avait fait aussi avec Espérance de Tunis, ça s'est super bien passé aussi. Il a remporté la Ligue des Champions. Et c'est un bon choix de carrière. Espérons que ce choix-là pourra confirmer.
Très bien. Alors, je voudrais revenir... Après, 2 ans, ça nous amène à 2024. On fait les éliminatoires de Coupe du Monde... de 2026 avec 9 qualifiés pour l'Afrique, hein, c'est ça.
Ouais. Non, mais j'ai encore la torture de l'élimination de la Coupe du Monde, donc je suis encore là, moi. Quand tu veux pas les éliminatoires les prochaines,
j'essaie de revenir sur terre parce que
compris.
Bon voilà, il va y avoir 9 qualifiés. On le sait. Aujourd'hui, il y a aussi des joueurs qui veulent rejoindre la sélection. On a parlé notamment de Houssam Aouar, le Lyonnais.
Mais tout ça, c'est il y a un an qu'on aurait dû faire ça.
Ouais.
C'est il y a un an derrière, voire 2 ans. Aujourd'hui, oui, on est sur un projet 2026, donc on est sur autre chose.
Parce que quand on me parle de 2024, avec Fabien, on a animé une émission sur la CAN 2023, et boum, reporté à 2024. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là?
Tu fais 2023. En virtuel.
Je pense qu'il y aura des matchs amicaux qui vont être programmés. C'est une opportunité pour Jamel Belmadi de tenter de nouveaux schémas, de tester de nouveaux joueurs.
Ça, il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'il aura dû être fait tout ça. C'est pas aujourd'hui.
Oui, mais là, ça fait partie de notre passé. Ouais. Maintenant, il faut se concentrer.
Oui, j'entends bien. Mais bon, quand tu es sur des projets comme ça, sportifs, ou tu es sur du très haut niveau international, tu es sur des échéances. Quand tu es sur du positif ou du négatif, si tu es du négatif, monsieur, il n'y a pas de négatif qui repart sur du positif, ça n'existe pas. Si ce n'est que sur des choix d'hommes. L'entraîneur, que je connais ça par cœur, tu choisis sur des rapports d'hommes que tu es toi. Que tu tergiverses pour prendre des joueurs là et pour reconstruire une équipe où ça aurait dû être fait il y a 2 ans en arrière. Et ce que je dis, je l'ai confirmé à Alger, je l'ai dit devant beaucoup de gens, et ça s'est confirmé tous les jours. Le travail, j'allais pas dire le boulot n'a pas été fait. Cette respiration des victoires a complètement annuler cette logique-là. Et aujourd'hui, on dit, on va reconstruire. Non, tu peux pas. Tu es sur un échec. Donc, faut reconstruire. Et tu reconstruis comment? Avec des 30 ans, 31 ans, ou tu reconstruis avec des 20 ans? Là, tu me parles d'espoir après. Et là, je te dis oui. Et là, tu parles d'espoir, on va prendre les 21, 22 ans. Pour leur donner 26, voire 8 ans national. Tu peux pas repartir avec des garçons qui ont vécu ce qu'ils ont vécu là. C'est pas possible.
Mais nous avons besoin aussi des joueurs qui sont expérimentés, surtout en Afrique.
Oui, ça, c'est des phrases. Ouais.
Quand on regarde des sélections, des sélections africaines, ce sont des sélections qui sont composées de joueurs expérimentés. Faut regarder la Côte d'Ivoire, par exemple.
Oui, bien sûr.
Faut regarder la Tunisie, le Maroc. Ouais. Bon, il y a une jeunesse qui commence à émerger. Automatiquement, bien sûr, ils confirment derrière. Mais pour confirmer aussi, il faut que ces jeunes joueurs soient entourés de joueurs d'expérience qui ont confirmé en Afrique, parce que l'Afrique, c'est pas l'Europe.
Oui, mais il y a une chose qu'il faut intégrer. Il faut pas attendre des discours comme ça. Il faut voir ton expérience, ce que tu as vécu déjà en Afrique. Tu as vécu quoi?
En Afrique.
T'as vécu du bon ou t'as vécu du mauvais?
Non, mais
t'as gagné ou t'as pas gagné? T'as été là-haut, t'as prouvé, t'as démontré que tu étais un joueur à part Mahrez dans l'équipe. Tu peux me dire qui est indispensable dans l'équipe? À part Mahrez et Attal, qui n'a pas joué à son poste en plus lors de la fin match du Cameroun, à part le petit Benacer, à part peut-être, on va dire, Mendy.
Mais ce sont des joueurs d'expérience.
Mais c'est fini pour eux. Ils peuvent pas
repartir. Tu parles de qui?
Non, mais ces gens-là, tu parles d'encadrement. Des joueurs qui vont encadrer. C'est des joueurs quand même qui vont arriver, qui vont apporter un plus. Mais ces garçons-là qui ont 31, 32 ans, tu vas leur demander de revenir sur un projet de Coupe du Monde. Parce que c'est la Coupe du Monde quand même, quand tu saurais pas.
Oui, je sais.
Le joueur, c'est la Coupe du Monde.
Oui, je sais.
Quand tu l'as
la Coupe d'Afrique aussi qui arrive.
Oh, c'est autre chose. En Côte d'Ivoire.
C'est important pour nous.
Ça va être la même. Mais non, ça va être la même quelques mois. Bah, écoute, il faut pas rêver. Tu vas en Côte d'Ivoire, mais tu gagneras pas la CAN.
C'est clair.
Moi, je pense pas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que si tu pars avec un esprit défaitiste, ça sert à rien d'y aller.
Mets-toi bien une chose en tête, l'Afrique.
Je sais,
depuis que la CAN existe, en Afrique subsaharienne, seule l'Égypte a réussi à dompter les autres nations.
Oui.
Mais jamais.
Mais comment ils ont réussi l'Égypte?
Mais l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ne gagneront jamais en Afrique subsaharienne. Il faut se le mettre dans la tête.
Oui, je sais, mais c'est un discours qui t'appartient. C'est une idée propre à toi.
Mais il ne faut pas fantasmer. On ne fantasme absolument pas. Tu rêves de gagner en Côte d'Ivoire?
Non, mais attends. Quand tu vas en Afrique, avec un esprit défaitiste, ça ne sert absolument d'y aller.
Même esprit gagnant, tu ne gagneras pas. Parce que tu as des éléments extra-sportifs
qui font
que tu ne gagneras
pas. Mais comment l'Égypte a réussi à gagner alors? Réponds à cette question alors.
Parce que c'est le seul pays.
Ils ont le Zamalek et le Ali, que tu n'as pas en Algérie.
Du tout.
Dans toute l'Algérie, tu ne l'as pas. Ces deux clubs-là, ces deux références-là qui se projettent dans la Coupe d'Afrique, dans la Ligue des Champions, qui gagnent à chaque fois, comme le WAC de Casablanca, comme le Raja, ce sont des équipes qui sont au-dessus de tout. L'Algérie n'a pas ça. Mais du tout, hein. Aucune. À moins que tu m'en sors un, hein, je sais pas.
L'AJSK. C'est l'un des clubs le plus titré en Afrique. On ne parle pas de l'AJSK d'aujourd'hui.
Même toi,
tu me parles de l'Égypte il y a 10 ans.
Non, aujourd'hui. Je parle du Zamalek d'aujourd'hui, je parle du Ali d'aujourd'hui.
Et pourquoi
du WAC d'aujourd'hui, je te parle de ces clubs-là qui, eux, ont la.
Et pourquoi ils ne sont pas en Coupe du Monde là? Et pourquoi ils n'ont pas pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu dans leur pays?
C'est ça.
L'Égypte. On parle de. C'est ça, non? On parle de l'Égypte.
Oui.
En 2019, ils se sont fait éliminer dans leur propre pays.
Bon,
ils sont pas allés en Coupe du Monde.
C'était un accident de parcours.
Un accident de parcours. Je suis pas d'accord, parce que quand tu me dis que. Certes, je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est très difficile de gagner, mais je pense que Jamel Belmadi, il a un autre état d'esprit, parce qu'on n'y va pas y aller en Côte d'Ivoire juste pour participer.
Tu crois ça?
Moi, non.
Donc, je vous dis. Attends, Je crois que on a une équipe. Voilà, on va aller en Côte d'Ivoire pour gagner.
Bien sûr.
La meilleure génération de tous les temps n'a pas gagné en Côte d'Ivoire en 84.
C'était la génération.
Il y a Assad, Majid.
Il faut pas rester en 84. Ça fait déjà des lustres. Et là, on est en 2022.
Et la bête noire en 84, c'était encore le Cameroun.
Mais c'est pas grave. Ça, c'est en 84.
Cette année, la Côte d'Ivoire, elle termine une année à la CAN.
Mais c'est pas grave. Nous, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que je pense que Jamel Belmadi a un autre état d'esprit. Et quand on part en Côte d'Ivoire, si on part pour participer ou pour faire de la figuration, ça sert absolument à rien.
Oui, éventuellement.
Non, mais ça reste ton avis. Mais lui, dans sa tête, je pense qu'il est ambitieux.
Oui.
Parce qu'il sort d'un échec.
Non, mais justement.
Automatiquement, il sera motivé. Il y aura d'autres joueurs.
Il sort d'un échec parce qu'il ne maîtrise pas l'Afrique.
Non, mais non, je suis pas d'accord quand tu me dis. Ouais, non, non.
Il ne maîtrise pas l'Afrique.
Non, attends. Quand tu me dis qu'il ne maîtrise pas l'Afrique, il est revenu du Cameroun avec une victoire. Faut pas me dire qu'il maîtrise pas l'Afrique. Parce qu'il a 35 victoires.
Non, mais voilà, ça a été la plus grosse connerie. Là, ça a été la plus grosse connerie. Mais non, cette histoire de 35 victoires nous a coûté la qualif à la Coupe du Monde. Parce que si on avait été battu au bout de 20 ou 25 matchs, ok. Mais au 35e, parce qu'on jouait des équipes à pleu-pleu, et puis on a gardé cette invincibilité, et qui nous a coûté notre place en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il aurait pu avoir 45 matchs sans défaite, mais le fait qu'il ait perdu ce match-là, khlas.
On a perdu, c'est ça le football, tu peux pas gagner toute ta vie.
Ah bah voilà.
Même les grands entraîneurs ont perdu.
Oui.
C'est ça.
On marque une pause et on se retrouve dans un instant.
Non mais là, je suis pas d'accord.
Fou de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Moi, j'adore les off de sport. Bien entendu, vous ne pouvez pas les écouter. C'est privé, c'est entre nous, c'est génial. Bon, on va aller du côté du Standard.
Quoi ?
Allô ?
Mais tu connais
pas du tout, j'ai dit allô, ça veut dire que vous éteignez votre portable, je ne sais pas moi. Allô ?
Ah oui, j'éteins.
Oui, oui, il y a
bonsoir.
Du... Oui, bonsoir, votre prénom ?
Bonsoir, Karim.
Karim.
De Lyon.
Oui, Karim de Lyon, c'est bon. Bah, je crois que tu étais en vacances, non?
Non, je suis là, tu sais quoi? Tu sais, quand c'est l'équipe d'Algérie et le football, tu sais très bien, je suis jamais en vacances tout le temps là. Mohen,
oui.
T'as bien fait de me passer, tu sais pourquoi?
Oui.
Parce que j'étais en train de bondir sur le canapé.
Ah, bah, tant mieux.
Par rapport à la personne, je connais pas son nom, si tu es en train de parler de qu'on vous lui disiez qu'en Afrique, on peut pas gagner.
Faudrait, c'est qui est jeune journaliste.
Ni toi, ni affaire. Ni toi ni Nasser, vous avez de la retenue, bah c'est normal, vous êtes à l'antenne, vous n'allez pas dire les choses. Tu sais, vous devrez lui dire, mais moi, je ne fais pas partie, donc je n'ai pas de devoir de retenue. Je vais lui dire ce que tu dois comprendre, je ne sais pas comment il s'appelle.
Faut-il.
En Afrique. Oui, faut-il. Ce que tu dois comprendre en Afrique, c'est pas une question de motivation de football. C'est qu'on va tricher. Tu ne vas pas gagner. Tu vas pas gagner parce que tout est fait dans la triche pour pas que tu gagnes. T'as pas compris ça? C'est pas un esprit de défaitiste. C'est que tout simplement, tu sais ce qui t'attend. Motivé ou pas, ils vont tout faire pour que tu perds. Je vous rappelle simplement une chose. L'équipe d'Algérie s'est éliminée à l'écran devant tout le monde. Devant tout le monde. Une génération qui est partie à la poubelle.
Ouais.
Qu'on a balancée aux yeux de tout le monde parce que c'était visible. N'importe quel petit joueur de football, il a vu la triche en direct. Il n'y a pas besoin de dossier lourd. Ça s'est passé à l'écran. Après, je dirais, voilà ce qui nous attend. Et c'est ce qu'il essaie, je pense, de dire Nasser tout à l'heure. Préparer quelle échéance? Faut pas faire rigoler. L'Algérie a préparé une super génération. On l'a balancé à la poubelle, à la poubelle. Ça veut dire qu'il y a des Algériens qui disent, préparons l'avenir. Mais qu'à l'avenir, ils vont se faire le même coup.
Ouais.
Tu comprends pas ça? Ce qu'il faut, c'est se battre contre ces gens-là. Parce que tu auras beau préparer des Mahrez, des Benacer, toutes ces générations, ils vont l'éclipser. Qui c'est qui nous a éliminés au fait? C'est bien le Cameroun qui a commencé pour l'invincibilité. Il nous a fait jouer sur un champ de patates. C'est lui qui nous a arrêtés.
Japouma.
Après, il nous a éteint les lumières. Après, il s'est dit, non là, faut vraiment mettre l'artillerie lourde. On va corrompre, on va faire ça et ils passeront pas. Ils l'ont fait. Moi, j'ai pas besoin de spécialiste ni de rien. J'ai vu ce qui s'est passé. L'Algérie a été éliminée de force devant ses spectateurs, devant tout le monde. Donc je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a préparé une équipe, on nous dit, attendez la Coupe d'Afrique, attendez. Mais ça se trouve, dans 15 ans, tu reviendras pas. Donc, je dis simplement et tout. Tout à l'heure, vous parlez de Chichi, vous parlez de Belali. C'est quand même grâce à l'équipe nationale, tu vois. Allô, Mohamed, t'es là?
Oui, bien sûr, je t'écoute, ouais,
Karim. Je te remercie. Et c'est grâce à l'équipe nationale qu'on a eu la visibilité, qu'on a découvert ces joueurs et que Chichi a été découvert. Moi, je l'ai vu, Chichi, aller un peu sur ses vidéos, un joueur extraordinaire, des passes précises, un pied gauche magique, l'accélération. Il était dans l'anonymat, ce gars-là. Et l'équipe nationale l'a fait découvrir et tout. Et ben maintenant, elle est où cette équipe nationale? On va voir qui tous ces jeunes là qui sont venus comme Bilal Brahimi et tout, et c'est dommage pour eux, on leur a arraché un rêve. Ce qu'on a puni, c'est pas simplement le football algérien, ce qu'on a puni, c'est tous les Algériens. On les a punis, punis. Et moi ça m'a dégoûté du football et de la Coupe du Monde.
Oh, si tu savais, Karim.
Ah voilà, ça m'a dégoûté. J'en ai marre dessus des mercato, l'autre il part là, l'autre il part ci, l'autre il part là et tout. Et chez nous, tu sais quoi, on est des laissés pour compte.
Oui.
Alors je dis à ton invité, ne me dis, parle pas de motivation en Afrique. Tu seras éliminé. C'est tout. Hein, t'as été éliminé chez toi en direct. Tu es encore
bien sûr,
naïf.
Tu peux répondre, Fodi, là.
Je veux juste dire à Karim que je connais bien. J'apprécie beaucoup ton analyse, Karim, parce qu'elle est très pertinente. Et tu dis des choses qu'on n'ose pas dire, pour être plus clair. Tu le dis aussi clairement que tu l'as dit, là. Ça suffit pour résumer exactement ce qui se passe aujourd'hui.
Karim.
Merci,
oui. Karim, j'aimerais te répondre aussi, parce que moi, tout à l'heure, quand je parlais de la motivation, hein, c'est tout ce que l'Afrique a des coulisses. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Niveau analyse, on partage la vie à 100%. Il y a des coulisses. On sait qu'on s'était fait éliminer en direct. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que Jamel Belmadi, c'est pas une question de motivation. S'il va en Égypte, il sait, il va prendre en considération ce genre de détails. On est bien d'accord, non?
Oui, mais ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait avant lui.
Oui, je sais.
Bien sûr qu'il va les prendre, bien sûr.
Voilà exactement.
Mais malheureusement, je me répète, ils l'ont fait en Algérie devant toi, devant Belmadi et devant toi.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu vas préparer quoi contre ça? Des super joueurs, des stages.
Mais Karim, est-ce qu'on va se focaliser uniquement sur cette défaite et on n'avance absolument pas sur cet échec de la Coupe du Monde qui est dur à avaler jusqu'à maintenant? Depuis mars dernier, on n'arrive pas à avaler cette pilule. Coach, tout à l'heure, il parlait en off aussi sur cette élimination. C'est difficile pour tout le monde. Mais est-ce qu'on va se focaliser uniquement sur cette élimination? On avance
Non. T'as raison, on va pas se focaliser là-dessus. Voilà. Par contre, la pilule, faut que ça soit eux qui l'avalent.
Voilà.
Il faut leur faire comprendre, et moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent passons à autre chose. Non, on va pas passer à autre chose tant que vous aurez pas pris ce qu'il faut en contrepartie. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont fait un truc grave et qu'à tout prix soit dénoncé. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, ils reviendront. Parce que là, t'as vu, ils laissent couler et avec le temps, tous les 80% des Algériens te disent passons à autre chose. Et c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. C'est que tous les Algériens, après, ils disent, mais il y en a marre. Ils sont arrivés.
Karim, ça, c'est le coup. Ça, c'est le coup de la main de Thierry Henry avec l'Irlande. Et je pense que la visite de Monsieur Patrice Motsepe, le patron de la CAF en Algérie, n'est pas innocente à ce sujet.
Karim, je me permets aussi de t'ajouter un truc. Je sais pas si tu étais là la semaine dernière. On avait diffusé une interview avec Rafet Daradji. Je sais pas si tu étais là. Rafet Daradji nous avait donné son avis sur ce qui s'est passé en mars dernier face au Cameroun, et il nous avait donné presque la même explication que toi, comme quoi c'était un arbitrage vicieux que nous on s'est laissé faire en Algérie, parce que il y avait des précautions qu'on devait prendre, chose que la Fédération de football algérienne n'avait pas pris. Il faut aussi rappeler un truc, que nous on n'a pas beaucoup de membres au sein du groupe fédéral de la CAF.
Ah, c'est clair,
voilà,
règles,
pour peser notre présence. Et ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que certes c'est une défaite qui est amère jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais il faut avancer, et je pense que la prochaine échéance, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'échéance qui arrive. On va pas se focaliser uniquement.
Je termine là-dessus, tu m'excuseras de te couper. Juste là-dessus. T'as raison. On va essayer d'avancer, sans oublier encore une fois, je me répète, de vraiment aller les contrer là-bas à la CAF, et peut-être même à la FIFA, parce qu'ils sont de mèche. Je terminerai simplement ça en disant à mes amis, le Cameroun a triché pour aller là-bas. Avant, je me disais les pauvres Camerounais. Et ben là, je le dis là devant l'antenne, j'espère que le Cameroun prend 3-0 dans chaque match, parce qu'il ne mérite pas d'y aller. Et j'espère que le Cameroun va se faire éliminer par 3-3-3, non, mais attention, un maximum.
Parce que justement, attention, hein, moi quand je regarde l'équipe du Cameroun, c'est sans doute l'une des générations les plus faibles des Camerounais qu'on a depuis... Attends, moi j'ai connu les grandes générations quand même, le Cameroun, c'était du lourd.
Et là, c'est une équipe moyenne.
Très moyenne, absolument.
C'est une équipe moyenne qui nous a... C'est une équipe moyenne qui nous a... Si on s'était fait éliminer par une belle équipe du Sénégal, on aurait dit bravo. On s'est éliminé par la minable équipe du Cameroun qui a tout pris sa place parce que M. Eto'o, il veut faire parler de lui dans toute la planète. Donc, on va passer parce que moi, je m'appelle Eto'o et moi, j'ai pas envie d'être dans l'ombre. Donc, oui, il a tout fait. Il a tout fait, monsieur. Et comme tu dis, une équipe de Cameroun moyenne qui a triché. Et je dis, je pense qu'aucun Algérien, si on avait fait ce qu'a fait le Cameroun, n'aurait admis qu'on aille en Coupe du Monde faire les malins après avoir triché. Aucun Algérien. Moi, j'aurais détesté l'équipe algérienne si elle avait fait ça.
En tout cas, Karim, Hafez Dalhadji avait qualifié l'arbitrage, puisque tu n'avais écouté, il avait qualifié l'arbitrage de Gassama d'arbitrage vicieux. Le match était extrêmement difficile à gagner pour les hommes de Jamel Belmadib, parce que sachant qu'ils avaient un 12e homme en face d'eux, qu'il y avait des faits de jeu que normalement qu'ils devaient siffler, il y avait une faute sur Alaïe Semboulhi juste avant le premier but, mais voilà, c'est, malheureusement,
c'était visible, c'était visible. Un arbitre qui se déplace pas pour toi, un arbitre qui se déplace pas pour toi. Oui, seule fois au VAR, qui va juste pour te dire que t'as pas fait, mis le but. Un gars qui, je sais pas moi, qui n'a rien à voir avec le football, il va trouver ça bizarre.
Oui.
Alors il y a des gens qui parlent, même des arbitres qui sont mis à dire, mais non, il y a rien. C'est des corrompus, des gens qui travaillent avec eux ou je sais pas qui. Mais un enfant voit que le match est volé devant lui. Donc, on nous dit, ah, c'est M. Infantino, c'est ça le football. Ah, c'est ça le football, t'es qu'un tricheur et un corrompu.
Karim, il y a deux choses quand même. Karim, je voudrais quand même intervenir sur une chose. Tu parles des Camerounais. Les Camerounais n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans le match. Hein. Ça, il faut le mettre de côté. Hein. Les Camerounais, ils ont joué leur match. C'est le comportement de l'arbitre qu'on sait, qu'on a vu et qu'on a bien compris ce qui s'est passé. Après, j'ai envie de dire, et j'ai expliqué à Fodil pour lui expliquer, parce que je pense qu'il n'a pas compris ce que c'est que le très haut niveau. Tu sais combien de temps il faut pour que tu avales cette histoire-là de Cameroun? Combien
de temps? C'est très, très difficile, bien sûr.
Années, il va falloir. Tu sais qu'il y a des pays comme qui ont coulé pendant 10 ans, 15 ans avant qu'ils reviennent. Quand tu as eu l'histoire de la Bulgarie, l'histoire du fameux match de Bulgarie où la France ne va pas, ils ont mis combien de temps? 10 ans pour revenir, pour remonter. Nous, on va aussi payer ce prix-là parce que l'échéance n'est pas, comme tu le dis.
On l'avait payé aussi en 2014.
Non, mais je ne parle pas de celle-là. 2014, c'est autre chose. Moi, je te parle des faits comme ça, des faits historiques qui sont là parce que ça va rester dans l'histoire du football. Ça, c'est pas quelque chose qui va passer à côté. Tu sais combien de temps tu vas te remettre de ça? Tu vas mettre 10 ans, 15 ans dans un pays comme le nôtre qui est aucunement structuré, qui vit, comme tu dis, à Jamel Belmadi, qui amène ses équipes, ses joueurs qui viennent d'Europe, qui viennent là, ou quand chez toi tu ne formes rien du tout, ou tu es nulle part, tu vas mettre 20 ans. Au moins 20 ans.
C'est la même politique, mais c'est la même politique depuis des lustres en Algérie.
Non, c'est pas la même.
Oui.
C'est autre chose.
Mais c'est pour ça que
un vrai potentiel, un vrai projet. Il est arrivé avec des vrais joueurs. Il est arrivé avec un vrai entraîneur. Il est arrivé avec une vraie qualification. Parce que c'est ça le haut niveau.
Non, mais
je vais te dire, le haut niveau. Attends, Karim. Le haut niveau, c'est le résultat. C'est tout. Et l'efficacité. Si tu l'as, c'est bon. Si tu l'as pas, tu prends ton sac et tu vas voir ailleurs. C'est ça aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, puisque tu parles de 2022, je vais te redire, le monde 2022, c'est les résultats qui priment. Si tu n'as pas ton résultat, tu prends ton sac et tu t'en vas, mon grand. Parce que c'est comme ça. On prend un autre, il vient avec un projet, il repart sur autre chose. Mais quand tu restes avec les mêmes, et quand tu me disais tout à l'heure, on va reprendre des gens qu'on va reconstruire, pas avec ce qui s'est passé. C'est terrible,
c'est terrible. Je te rejoins là-dessus, pourquoi? Parce que je te connais un peu maintenant, je sais que t'es très très, on va dire, très visionnaire et tout. J'apprécie beaucoup tes analyses et je dis, voilà, Nasser est en train de dire, et tu prépares quoi pour quand? Et c'est fini, il y a une génération qui vient de partir, tu prépares quoi? C'est tout ce qu'on a préparé, ça a été balayé. Et c'est quoi le projet aujourd'hui? C'est quoi le projet? Et tout ce qui nous attend.
Je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est très juste. N'oublie pas que dans la carrière d'un joueur, c'est la Coupe du Monde. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, on le sait.
Non, mais c'est pas, tu le sais. Non. C'est pas
c'est
les
très
gens
qui
non, mais parce que la façon que tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu vas recadrer avec des garçons qui vont t'encercler, t'entourer ton groupe. Mais les mecs ont 30 ans, 31 ans, ils s'en vont. Ils restent pas. Ils peuvent pas. Même s'ils viennent, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas.
Parce que le football va très vite maintenant.
Ben, il va très vite, et surtout que ces garçons-là, ils ont perdu leur rêve. Tu sais ce que c'est que perdre un rêve pour un joueur?
Oui, je sais, mais c'est des joueurs professionnels, ce sont des joueurs qui ont déjà perdu. Ça veut dire.
C'est les hommes qui vivent ça. T'es un petit enfant, tu vas en Coupe du Monde, et on te l'amène au bout de la rue, et on te le donne pas. T'arrives au bout du match, à la dernière minute, on te le donne pas. Et tu vas repartir, tu vois, je repars en sélection. Mais c'est fini. Tu verras qu'Eboli c'est fini, Benhamri c'est fini, Mendy c'est fini, on va t'en chiffrer en pagaille comme ça. Il restera. Marais, ça va être en point d'interrogation, il va partir. Il restera pas, et tu vas reconstruire avec des garçons qu'on a vu arriver.
Donc Mendy pour l'instant il est en équipe nationale. Marais aussi il est en équipe nationale.
Ça va partir, ça.
Oui, je sais qu'ils vont partir, je sais qu'ils sont pas éternels en équipe nationale.
En fait, le rêve du monde, ils vont partir là.
Ils vont pas partir dans 2 ans, ils vont partir là. Parce qu'ils vont, à un moment, ils vont t'annoncer que sa carrière internationale, il l'arrête, parce que tu ne vas pas revivre ce qu'il a vécu là.
Non, ah, je pense que
Nasser, tu connais pas le haut niveau encore.
Nasser, je te remercie.
Non, mais c'est pas ça.
Merci,
des joueurs qui sont professionnels. Attends. Dire, ils vont pas se focaliser uniquement sur une défaite.
Non.
Je sais que c'est difficile à gérer.
Non, c'est pas difficile, c'est très très dur.
Bah,
c'est,
bien sûr, tout le peuple algérien est en train de vivre la même situation.
C'est un traumatisme à vie pour ces gens-là.
Je termine après je laisse. Je termine tout en disant à Nasser merci et tout. Pourquoi? Parce que, comme il le dit si bien Nasser, t'as balayé le rêve de joueurs qui ne reviendront plus. Des Algériens, quelque part, ceux qui disent pas sont autre chose, je peux les comprendre, mais en même temps, je dis, vous êtes des individualistes et vous avez pas... Ces joueurs, ils ont tout donné, ces joueurs, c'est le rêve, il a été cassé, et vous, c'est simple de rentrer chez vous, passer, c'est de pas d'être là assis, de dire, oh, passons à autre chose. Mais non, parce qu'eux, ils se sont battus, ces joueurs, pour eux, pour l'équipe nationale, et au final, quand on trouve des gens qui disent, mais arrêtez, passez à autre chose. Mais c'est voilà, c'est une façon égoïste et méchante, toi. Voilà.
Merci Karim pour ton intervention.
C'est moi qui te remercie.
Bonne soirée, merci.
À toi aussi.
Et
à
bonnes vacances.
Et à tout le monde, à Nasser, à toi, à tout le monde, très bonnes vacances.
D'accord, merci.
Merci, bonnes vacances.
Ça ne nous empêchera pas, le soleil est pour tout le monde.
D'accord. Tiens, tu vois, Foudil, t'as vu ce que le coach a dit. Le rêve, c'est pas autre chose, c'est le rêve. Un pro, tu lui retires son... Tu sais, tu peux faire tous les... regarde aujourd'hui, quelle est la crainte des grands footballeurs? C'est de ne pas faire une Coupe du Monde. Les très grands, de ne pas la gagner. Donc, chez nous, c'est vrai que cette génération qui a gagné la CAN...
Est-ce que la carrière de ces joueurs s'arrête uniquement à cet échec?
Oui, c'est très bien ce que tu dis. C'est une très bonne question ce que tu poses.
Oui.
Je pense au plan sportif, oui. Sur le plan humain encore, oui.
Oui, sur le plan humain, oui, je suis d'accord. Mais sur le plan sportif, ils continuent leur carrière.
Non, oui, non, mais non, ça n'a rien à voir. Après,
comment ça, c'est
non. Mais oui, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une échéance où on te dit, tu allies ton rêve avec ta profession. Aller faire la Coupe du Monde. T'arrives, la Coupe du Monde, et moi, je te parle du scénario qu'il y a eu.
Oui, bien sûr.
Tu peux être comme l'Italie, être éliminé sur un match, et
oui.
C'est autre chose. Mais quand tu es en match, et tu te qualifies, et tu arrives au bord de la falaise, et tu... Ah. On te le coupe, on t'arrête net, là. Tu sais, sur le plan humain, sur le plan psychique, qu'il va y avoir. Mais c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami qui arrive dans leur tête, là. Et tu leur dis à ces garçons-là, tu vas repartir en football normal. Mais ça va les influencer, ça va jouer sur eux, sur tout leur parcours de carrière de joueur. Ça va revenir tout le temps. Mais tout le temps. C'est ce qu'on appelle les traumatismes. Des vrais traumatismes. À moins que, mais faut être joueur pour comprendre. Moi, je suis allé,
à
ce niveau-là, et pour bien comprendre ce que c'est. C'est pas des mecs qui viennent, c'est des robots.
Ah, non, mais ça, je sais.
Ah, je reprends un maillot. Déjà. Ah, je rejoue là. Ah, non, c'est fini. Là, c'est des traumatismes. Nous, on l'est. Alors, j'imagine eux.
Hein. Ouais, ouais, ouais. Merci, coach. Merci, Foudil. Donc, on arrive déjà à la fin de cette première heure. On va marquer une dernière pause avant d'enchaîner avec, bien entendu, cette deuxième heure d'émission, la dernière de la saison. Très passionnante. C'est vrai que le grand événement, on peut le dire aujourd'hui, le grand événement de cette saison 2022 aura été indiscutablement l'élimination de l'équipe d'Algérie de la Coupe du Monde.
Heures, 20h, Fou de Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Ah oui, je vous l'ai dit. Moi, en fait, un jour, bon, je peux pas, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas raconter comme ça à l'antenne, parce que ben, les coulisses font partie aussi de notre jardin secret. C'est comme ça, et on vous distille quand même des infos très utiles. Bon. Mon cher Sofiane, ouais, parce qu'ils sont venus en vacances, c'est Foudil qui est avec moi.
Et moi, j'en étais sûr qu'il allait me dire Sofiane. J'en étais sûr.
Oh là là.
Je le dis à chaque fois.
Tu as senti un truc. Ouais. Bon, alors, Foudil,
oui.
On revient malgré tout sur le mercato, parce que les joueurs pros, ça bouge, notamment. J'ai retenu l'arrière marocain, Mazraoui. Qui finalement signe au Bayern de Munich. Ah ouais.
Très 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 bonne nouvelle pour lui. Lui qui a évolué, qui a été formé à l'Ajax et qui maintenant est au Bayern. Automatiquement, il est en train de gravir un nouvel échelon, une nouvelle carrière, une nouvelle dimension pour sa carrière. C'est une très bonne nouvelle pour lui et pour la sélection marocaine et pour Vahid Halilhodžić surtout.
Ouais. Bah, du coup, je fais le parallèle. Arrière latéraux marocain à droite, ils ont Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, à gauche Mazraoui, Bayern de Munich. Nous, on a Youssef Attal, Nice, et on a Ben Sebaïni, Borussia Mönchengladbach. Est-ce qu'on a sur ces profils derrière latéraux, tu as une petite comparaison comme ça à faire?
Je ne les connais pas assez, je ne les vois pas réellement dans leur championnat de toutes les semaines. Par contre, ce que tu vois, c'est des vrais profils et on voit arriver aujourd'hui ces joueurs qui portent le jeu de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on confirme que des joueurs comme Hachmi, qui est à
Hakimi, qui est
au PSG, par son style de jeu, on voit quand même qu'il apporte cette nouvelle. Cette nouvelle technique qui se met en place, mais c'est priorité qu'ont aujourd'hui le football, qui est passé par les couloirs et passé par les côtés. Et on met des joueurs de très très bon niveau technique, pas obligatoirement physique, hein, ou de duel.
Oui, technique.
On fait une période où on disait, avant d'attaquer, il faut défendre. On dit toujours ça.
Oui, oui.
Aujourd'hui, on ne dit plus ça maintenant. On dit que l'aspect offensif est primordial pour le joueur. Donc on est sur ces options-là, sur ces joueurs-là, avec des entraîneurs qui, eux, prennent les risques, ils osent. On dit, voilà, on va défendre à 2, à 3, peu importe, mais on va attaquer à 7, 8. C'est ça le jeu que tu vois aujourd'hui dans le monde du football. Ouais. Et ces garçons-là qui ont ces orientations-là, ou du moins qui ont ces qualités-là, eh ben on va les chercher. Hein. Je suis pas étonné que ce garçon-là, il était à l'Ajax.
À l'Ajax.
Oui.
En revanche, c'est un arrière-droit et défenseur de métier.
Ouais.
C'est pas un arrière-gauche.
Oui, après, donc là, ils le mettent à gauche parce qu'il ne peut pas concurrencer Achraf Hakimi. Donc, mais malgré tout, quand même, sur les flancs, ils ont des joueurs de très haut niveau.
Oui, même l'Algérie, c'est pour ça qu'on a été très bon à une période. Hein.
Oui.
Ce que les gens oublient, ce qui dit pourquoi l'Algérie marchait bien, c'est parce qu'on a eu le petit Attal, le Bézali qui était là. Hein, ça, tout le monde l'oublie. Hein,
ouais.
Et qui avait Adlen plus Benacer, qui ont fait le travail, vraiment.
Devant la défense.
Le travail.
Ouais,
on va dire ça. Mais bon, je parle des latéraux et des axiaux. Après, le reste a pu s'éclater. Belaïli et Barrès, surtout, qui a pu. Et derrière, cet équilibre-là qu'on avait, qu'on aurait pu l'entretenir ou du moins l'enrichir, on ne l'a pas fait, qui fait qu'aujourd'hui, tu te fais éliminer d'une Coupe du Monde ou tu es mort. Hein. Tu
peux parce qu'aujourd'hui, c'est Nasser, je reviens vers toi, parce que ces nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, on sait qu'elle va se jouer au mois de novembre prochain au Qatar. Mmh. Je prends le cas de l'équipe du Maroc. En plus de ces fameux trois premiers matchs du premier tour de Coupe du Monde, il y aura des matchs éliminatoires de la CAN, même si on sait que c'est finalement cette CAN ne va pas se jouer en janvier prochain, mais en 2024. Du coup, qu'est-ce qu'il y aura comme préparation pour ces sélections qui auront un vide calendaire? Ça va être un vide.
Ah oui, mais...
C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a parlé de projet, mais de quel projet? Parce que si tu finis tes éliminatoires là en novembre, mais tu fais quoi après en 2023? Tu joues quel match?
Rien du tout. Ben oui.
Mais oui.
Là, tu vas faire comme beaucoup de gens. Tu vas faire des matchs avec quoi? Avec des équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde. Tu vas jouer avec eux. Tu vas tenter des expériences qui auraient dû être faites il y a 2 ans. Moi, je reste quand même là-dessus. Je ne démordrai pas que s'il y a une erreur qui a été commise. Et j'aurais dû l'appuyer il y a 2 ans, quand les choses se passaient.
Ouais.
Que tant que tu ne préparais pas, tu ne te projetais pas sur l'avenir, sur les joueurs, sur ce qu'il pouvait y avoir, et en imaginant ce qui s'est passé derrière, en l'imaginant un peu avant, on aurait pu éviter de voir des joueurs qui ont joué et qui jouent dans des pays du Golfe et qui n'auraient jamais dû mettre les pieds dans ces équipes-là, dans ces intensités, dans cette pression-là. Et on l'a vu lors du fin de match, hein. L'erreur de Bedrance.
Ben Ayada,
ouais.
Sur le plan tactique, à ce niveau-là, ça n'existe pas. Et il le fait, le mec. Ouais. Donc c'est pour te montrer que, voilà, il vient d'où, tu regardes son parcours, tu dis, c'est ça. Le haut niveau, le très haut niveau, t'amène cette rigueur-là, que tu n'as pas à ce moment-là. Et ça a coûté ce que ça a coûté. Peu importe qu'on met le doigt sur
ça. Oui.
Il n'est pas là l'histoire. Mais je dis que c'est ces histoires-là qui fait que ces équipes-là, les 2 ans où tu n'auras rien à faire, tu vas pouvoir faire des essais et aller chercher des joueurs, je ne sais pas où, là, et peut-être inventer une équipe qui va te. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes les matchs avec les grands joueurs. Attention, on ne peut pas oublier. Hein, si on marche comme on marche depuis quelques temps, c'est qu'on a quand même des joueurs qui sont à de très haut niveau en Europe aujourd'hui. Hein. Sinon, tu n'existes pas en Afrique. Hein.
Alors justement, on profite un peu de ce mercato avec Sofiane pour. Avec Fodil, décidément, je ne sais pas. J'ai du mal sur cette deuxième heure, c'est incroyable.
Sofiane, t'es où là?
Bon, il est en vacances, oui. Alors, Fodil, un mercato agité.
Un mercato effectivement très agité avec beaucoup de mouvements. Il y a Zidane Farhat qui a signé un contrat de 2 ans en faveur de la formation turque Antalyaspor.
Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle. Ouais. Pour rappel, le club turc a fini 5e l'année dernière, synonyme de qualification en Europa League.
Ouais.
Il y a aussi Bologne qui fait le forcing pour récupérer Adam Ounas. Chetti qui a rejoint Angers, l'international algérien des moins de 18 ans, Noham Abelawi, qui quitte son club formateur, l'AS Saint-Etienne, pour rejoindre le promu de la Serie A qui est Lecce. En revanche, il y a beaucoup de mouvements aussi au niveau de la sélection algérienne, alors que tous les clubs ont débuté leur préparation prévision de la saison à venir. De nombreux joueurs algériens portant de l'échiquier de Djemel Belmadi n'ont pas été encore fixés quant à leur avenir. La liste est très longue. Il y a Rami Bensebaini qui est clairement sur les départs du Borussia Mönchengladbach. De nombreux clubs s'intéressent à lui. Il y a Manchester United, Dortmund et même l'Inter Milan pour l'instant. Islam Slimani qui continue de s'entraîner avec le Sporting Portugal, mais le club lisboète lui a fait clairement savoir qu'il ne compte pas sur lui. Quoique, il y a une place qui se libère puisque Pablo Sarabia est retourné au Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il y a une place à prendre en attaque. Il y a aussi Sofiane Figouli, Hussein Benayada, Farid Boulaya, Rachid Razel, Alexandre Oukidja et Isaac Belfodil qui ne sont toujours pas fixés pour l'instant.
Ça en fait du monde là.
Ouais, effectivement, la liste est très grande et très, très longue. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joueurs.
Bah, comment veux-tu que Belmadi, du coup, prépare le match de la rentrée en plus, c'est début septembre face au Niger.
Ah, il faut des joueurs. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent.
Oui. Alors, moi, celui qui m'intéresse, parce qu'avec Nasser, on le suit depuis un bout de temps, c'est l'histoire de Adam Ounas. Alors, Adam Ounas, c'est quand même un super garçon. Finalement, à Naples, il est un petit peu bloqué par. Comment s'appelle le joueur, là, le petit joueur italien, la trapu. Non, c'est vraiment un vrai Italien qui le bloque, et du coup, eh ben Ounas, il fait des bribes de match, et peut-être que s'il partait vers Bologne, et là, il serait titulaire, parce que le garçon, techniquement, il est trop fort.
Ouais, mais bon, pourquoi? Ounas, il est classique, hein. Il pétrit de qualité, il a montré des choses phénoménales, mais il a montré que des bouts de choses, on n'a pas vu.
Mais c'est ça.
Dans ces petits bouts, on l'a pas vu dans des grands matchs. Et j'attends toujours ça, pourquoi il n'a pas joué le match du Cameroun, le match aller-retour, il faut qu'on m'explique. On parle de blessures, je sais pas quoi.
Et du Covid aussi.
Ouais. Et après, tu as vu ces fameux joueurs-là qui sont toujours 14e, 15e dans une équipe et qui rentrent pas, qui rentrent très peu.
Ouais.
Donc il faut qu'il ait trouvé des temps de jeu. Après, ça, c'est manager. Bologne, c'est des bonnes équipes, mais bon, le petit Ounas, il joue à Naples. Ils ont été vice-champions d'Italie.
Oui.
Et c'est compliqué de partir de là et de retrouver dans des clubs qui jouent la 6e, 8e place. Il a quel âge, le petit Ounas, là?
25, 26 ans par là, non?
Ouais.
Facile, normalement, Fodil doit avoir cette info, mais c'est plus dans cette tranche d'Alassar.
Ouais. Donc voilà, il a un parcours, mais après, quand tu es en Italie, dans des clubs.
25 ans.
Ouais.
T'as vu, dans des clubs, t'as des parcours là. Tu viens sur Bologne, pourquoi? Pour finir au Milan AC, tu pas. C'est compliqué parce qu'il a pas montré vraiment. Comme à Naples, hein, on l'a pas vu faire montrer vraiment son talent, et on l'a vu nous, plusieurs fois dans des matchs. Bah, le dernier match qu'il a fait avec l'équipe d'Algérie, il a marqué, il a fait.
Ouais.
Bon, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à redire sur ce garçon-là. Et c'est compliqué.
Bon. Et puis, on l'a dit aussi, il est répété, toutes ces absences, ce manque de signatures dans les clubs, fait que le joueur psychologiquement n'est pas dans de meilleures dispositions pour les matchs de reprise, là. Hein, et la reprise. Ça y est, par exemple, en France, la Ligue 2, c'est le prochain week-end.
Ouais. Ouais, mais bon, après, c'est le problème des managers et de retrouver des clubs et de retrouver. Mais si tu étais qualifié en Coupe du Monde, tu crois qu'il serait là, les garçons, là?
Voilà.
C'est tout. C'est pour dire l'offre et la demande. Il est aussi assujetti aux résultats. Si tu as des résultats, tu nous intéresses. Parce que c'est un garçon qui fait une Coupe du Monde, c'est pas le même. Hein. Quand il va partir et quand il va revenir. Et ça intéresse beaucoup les clubs. Et si t'as pas ça.
On avait vu, en 2014, on avait vu un Boulhi qui avait fait un super mondial à finir aux États-Unis. Je pense que c'est pas ça qui fait la demande. Moi, je pense que les joueurs.
Gardien de but, si, États-Unis, gardien de but, c'est du top. Hein.
Non, mais c'est pas du top par rapport à la Coupe du Monde qui nous a sorti. Je le voyais dans un autre grand club.
Il a construit une marque dans son contrat. Il était stipulé que lui, il a été aux États-Unis parce qu'il a construit une marque. le gardien de but, je ne sais pas quoi.
Oui.
Et il fallait que ça passe sur les États-Unis. Donc d'accord. Le club lui a donné l'ouverture de ça. Il faut bien aussi l'intégrer ça.
Je pense que les joueurs algériens sont victimes de leurs agents parce que c'est pas normal.
Ah, ça, voilà. On peut le confirmer.
Parce que quand on voit des joueurs comme Adam Ounas, comme des joueurs comme
Farhat, qui a été victime
de Farhat, comme Rachid Ghazal et Razel et tout, enfin, se pose des questions parce que ce sont des joueurs qui ont leur place, que ce soit en Ligue 1, dans les championnats européens. Et c'est ça, les joueurs algériens sont victimes de leurs agents parce qu'ils sont gérés par des gens qui n'ont pas un bon réseau. Il faut voir Riyad Mahrez. Il faut voir Riyad Mahrez.
La City quand même.
Voilà, ouais. Mais il est géré par qui?
Ah oui.
Et Youssef Belaïli. Au début, il était géré par son père. Ensuite, il a sollicité une entreprise en Espagne. Et automatiquement, il faut le voir maintenant avec le contrat qu'il a signé. J'imagine dans son contrat, il va y avoir des clauses aussi de publicité. Et voilà, c'est ça les joueurs algériens.
Nasser, le problème c'est que c'est ce que dit Faudil est très intéressant, à savoir que aujourd'hui un joueur c'est aussi le fameux droit à l'image, c'est les marques, c'est les sponsors, c'est un business autour du joueur. Ça c'est les champions en la matière, ce sont les Portugais. Hein. Rappelle-toi l'histoire de Brahimi où je crois qu'il est coupé en trois parties, son corps il est divisé en trois parties. Quoi.
Il y a des jours, c'est 20. C'est 20 parties.
Ah oui.
Ah oui, oui. Bah oui. Des pourcentages sur chaque partie de ce qu'il est, lui, bien sûr. Bah oui. Aujourd'hui, quand tu signes un contrat, il y avait 7 pages. Aujourd'hui, il y a 200 pages.
Ouais.
Au moins.
Donc, quand on signe ce genre de contrat, il faudrait y être entouré par des agents qui connaissent vraiment leur travail.
Des avocats, tout ça, etc. Ce qui n'est pas le cas des joueurs chez nous.
Et là, l'histoire d'Mbappé avec l'équipe de France.
Oui.
Oui.
C'est une sacrée histoire, ça.
Une histoire qui est partie pour durer aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Est-ce que, justement, Nasser, tiens, parce que je fais une transition comme ça, concernant, justement, ce fameux droit à l'image. Un joueur qui te dit... Moi, cette marque-là ne correspond pas à mes valeurs.
Ouais.
Ben oui. Donc, même si c'est au sein de la sélection et que c'est une signature de groupe, tu dois te plier et le joueur te dit, moi, je ne viens pas. Je n'accepte pas ce qu'on appelle le shooting, voilà, par exemple, pour les médias parce que ça ne correspond pas à ma valeur. Ou à mes valeurs.
Oui, mais c'est tout. Le droit à l'image, le droit sur le plan juridique va se remettre réellement en question parce que tu poses un vrai problème et un vrai embêtement. J'allais dire un embêtement très compliqué parce que là, on touche à des domaines entre domaine privé, domaine public, domaine personnel et collectif. Ça veut dire que, est-ce qu'une personne, puisque la question, il faut la poser autrement, c'est que, est-ce qu'une personne qui intègre un groupe là doit accepter ce que le groupe, l'équipe de France, on va dire, a elle comme sponsor. Est-ce que tu es dans l'obligation d'accepter ou pas? Et ben Mbappé lui dit non.
Mais c'est ça justement. Il a
dit non.
Il a osé dire non.
Oui, parce qu'il dit moi j'ai un autre droit à l'image dans mon club qui n'a rien à voir avec l'équipe de France. Parce que, de toute façon c'est mutualisé leur histoire. Hein, parce que c'est quand même l'image de l'équipe de France et l'autre c'est l'image du PSG. Donc quand tu es dans ces domaines là. Est-ce que mon image, moi, qui est au PSG, qui est d'un mec qui est avec des sponsors qui sont d'ordre de l'équipe, plus mes sponsors privés à lui, qu'il a proprement dit, et comment tu rentres dans l'équipe de France qui, elle, te propose, c'est l'histoire que tu as vue, les mecs jouent là-dessus, quand ils voient des marques, ils les retirent.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais le problème, c'est qu'après, tu es dans ce plan juridique. Il faut prendre un juridique qui vienne là et qui vienne t'expliquer les fondements de tout ça. Parce que là, on y est vraiment. Hein. Et là, on est sur le droit d'image. Et l'image, quand c'est Mbappé, c'est pas quand c'est Griezmann. Hein. C'est pas le même retour. Hein. Et c'est là-dessus qu'il dit. Quand tu mets quelques joueurs qui n'ont pas la cote, qui ne sont pas dans le référentiel, et ben quand tu mets Mbappé, tu mets Benzema et tout dans la même image, c'est pas la même chose qu'il va avoir comme retour. Et c'est ça qu'ils veulent mesurer. Et donc, ils veulent un retour là-dessus. Et en sachant que lui, déjà, l'argent qu'il avait là, il le distribuait déjà à des offres caritatives. Et c'est emmerdé, ça. Parce que c'est ça l'histoire de dire, tu as pris. Non, j'ai pas pris, j'ai donné.
Oui. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Parce que ce que Mbappé a fait, c'est peut-être aussi une révolution dans le marketing du football. Hein.
Ah oui, ça va être énorme.
Justement, on va en profiter. On marque une première pause dans cette deuxième heure de Foot de Sport. Et on se retrouve dans un instant.
Foot de Sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de Sport sur Beurre FM.
Beurre FM. Allez, on revient sur le plateau de Foot de Sport avant de parler, d'ouvrir une page un peu calamiteuse qui concerne le handball. Un petit coup d'œil du côté du Standard. Bonsoir. Allô.
Mohamed.
Ah, Malik.
Malik.
Bonsoir.
Malik.
Comment il va, Malik?
Ça va, Souya, Mohamed. Il y a longtemps que je ne t'ai pas appelé tout ça. Voilà. Il passe un grand bonjour à Nasser Sundjak.
Il est là, Nasser.
Ouais, je vous ai dit pour Vanisha vendredi dernier, là, si vous passez un grand bonjour à Nasser Sundjak et Mohamed. Et Nawel. Et avec l'autre, la Sofiane. Ouais, je lui ai dit deux fois, à Vanisha. Là, je parle avec Vanisha vendredi dernier.
Ah ouais. Et Nawel, elle est
voilà. Voilà. Grand bonjour à Sofiane. Et de l'autre côté, Nawel, Bollara et tout ça. Et à toi et tout ça, à tout, voilà. Votre collègue et tout ça. Voilà. Bon, Mohamed, il y a du nouveau.
Ah.
Il y a, comment ça, le joueur de parade au 21 ans, il a signé à Charleroi en Belgique. 21 ans, là, 22 ans. De Parado.
Oui, alors, attends, Fondil, tu peux me confirmer ça?
Oui, bien sûr que c'est... Il s'appelle Nadir Benbouali, c'est ça? Il a signé son contrat avec Charleroi.
Charleroi.
Ça marche bien.
C'est pas Nawel?
Comment?
C'est pas Nawel?
Mais non, non, c'est pas Nawel, c'est Fondil.
Non, c'est Fondil.
Encore un autre joueur, Moussaf Bikari de Spiff, il a signé en Kerouassi, il a 21 ans.
Par contre, j'ai pas compris. Partir en Kerouassi, on sait que c'est les anciens.
C'est une bonne opportunité. Bilal Soudani, il a confirmé en Croatie.
En Croatie? C'est un joueur de Spiff.
D'accord. Parce qu'ils ont un bon réseau. Il y a aussi une autre information, c'est l'ancien gardien de l'US Sétif, Khardin, j'ai oublié son nom.
Khardaria,
qui a signé en deuxième division de l'Arabie Saoudite.
Il a été formé ici en
France. Mais deuxième division, c'est pas bon.
Une dernière information aussi, il y a Massinissa Oufla qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui ne va pas porter les couleurs du CRB Blues Dead. Il privilégie la piste européenne pour progresser.
Ça veut dire que c'est bonne nouvelle.
Un comeback ici, quoi.
C'est bonne nouvelle. On va voir des joueurs en équipe nationale d'Algérie, on va voir et tout ça.
Ouais.
Voilà, Mohamed, c'est une bonne nouvelle.
Bien sûr que c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Ouais, une bonne nouvelle. Plus Hassan Awar pour l'Algérie, c'est bien. Ouais. Tous les gens, ils disent que c'est le top pour l'équipe nationale.
Ah oui.
Avec le retour d'un deuil de l'or.
Attends, c'est vrai que Nasser, quand on a balancé l'info, tu étais forcément en Algérie, au moment de la rencontre entre Belmadi et Andy Delors, qui confirme son retour en sélection.
Le retour, André Delors, avec Hassan Awar.
Non mais coach, ça se voit que tu étais devant les plateaux de sardines au bled. Là,
il y a aussi, Malik, il y a une dernière information aussi.
Oui.
Il y a une dernière information, c'est Kousseïla Boualia, c'est la pipi de la GSK qui a été approchée par des clubs de la Ligue 1.
Ouais, c'est bien. On va voir des bons joueurs et tout. Et l'autre là, comment s'appelle celui-là qui joue à Nice là, Aligouri, est-ce qu'il a choisi l'équipe de France ou bien
la sélection la sélection française.
Sélection française, voilà, je sais, je comprends déjà. Voilà.
Parce que pour l'instant, il est encore jeune et puis que.
Non, il a 21 ans, moi, il a 21 ans.
21 ans, il est
21 ans, 22 ans. C'est comme Bilal Ibrahimi. La même chose.
Non, mais Bilal Ibrahimi, il a fait un choix.
Voilà, et tout ça, il a
mais
fait
c'est
choix,
vrai qu'un
voilà.
Amine Gouiri, ce serait le must. Après, tout dépend de l'approche et du projet qu'on lui propose, hein, Malik. Hein.
Voilà. Il y a Tinadli, il y a Tlour, il y a Dalou aussi, il y a beaucoup de joueurs.
Ben on verra la
rentrée.
Merci, Malik.
Voilà. Et on a des joueurs, il y a des joueurs par rapport quand ils vont partir à 18 ans, là. Traoui, je ne sais pas, Portugal, ou je ne sais pas, et tout ça. Voilà. On va avoir des bons joueurs, là, avec l'équipe nationale. On va attendre de leur attaquant comme Hassan Awar, comme ils ont dit, c'est le top. Normalement.
Bah écoute, on verra ça.
Ouais, voilà, voilà. Non, effectivement, là, il a choisi l'Algérie, c'est fini. Hein. Ah, il a fait le papier sportif algérien, c'est fini.
Ce qu'on appelle la nationalité sportive.
Ouais, sportive. Il est de Haït Mouchot, il est là depuis de Nawal. Bon. Voilà. Peut-être Nawal a rencontré là-bas.
Ah ben c'est possible, je vais poser la question.
Voilà. Voilà.
Merci à Malik.
Bon courage. Merci. Attends, je passe un grand bonjour à mes amis à Samir, oui. Pour ton dîner à le boulevard Bussière à 17e. Et comment s'appelle la table Kassim de Versailles. Oui. Et Becker Ramzan dans 14e. La plaisance, Métro Perdé était 14e.
Ok, Amalie.
Voilà, je t'explique, c'est sur Mère Mohand, Diable Mohand Mdakoulino. Et il y a Willou Nounas. Voilà, quand c'est au bien fleuris.
Ok, ça va être Amalie.
Allez, bon courage.
Merci. Eh oui, Nasser, c'est vrai que tu n'étais pas au courant sur le retour d'Andy Delors en sélection. Il y a eu la rencontre Belmadi Delors.
Ah bon, ça?
Ah oui. Faut dire, là.
Pour l'instant, on ne sait pas où elle a eu lieu.
Oui, c'est juste que ils se sont rencontrés.
Jamel Belmadi l'a évoqué en conférence de presse en mois de mars dernier. Oui. Lui, Andy Delors avait confirmé aussi cette rencontre dans un entretien accordé à Nice matin, il y a une semaine. Et on attend son retour. Il avait dit que je suis disponible pour la sélection algérienne pour l'instant. On attend la décision de Jamel Belmadi. Est-ce que c'est un bon retour? Est-ce que c'est une bonne recrue? Parce que c'est un retour. Le temps nous le dira.
Mais
t'en penses quoi, coach?
il est filou. Hein. Oui, j'en pense rien du tout. Simplement, c'est qu'il y a des choses qui auraient dû se faire bien avant. Cette histoire-là n'aurait jamais dû exister. Jamais.
Aurait dû se faire
entre les personnes en direct sans que tu.
Voilà. Non, parce qu'apparemment, il n'y a pas uniquement. Il n'a pas refusé la sélection algérienne uniquement. Il y a eu un autre problème familial d'Andy Delors. Et quand il avait vu Jamel Belmadi, lui avait expliqué la situation. C'est d'après la presse algérienne. Et quand ils se sont vus, il a expliqué la situation, automatiquement, Jamel Belmadi s'est montré compréhensif. Ça, c'est selon la presse algérienne et tous les médias algériens.
Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter?
Je me méfie quand même.
Oh, tu les connais bien, Faudil, hein?
Moi, j'avais dit selon.
Oui, j'aime bien. C'est selon, oui.
Selon, mais ça n'aurait jamais dû exister, cette histoire-là. Jamais, jamais, jamais. Le prix, on l'a payé, hein. Je peux dire, on l'a payé pour la qualification encore. Je pense. D'un avis personnel.
C'est pour ça que même là, quand on parle de Delors, quand on parle de Aouar, encore une fois, le problème, il est dans cette histoire de projet décalé dans le temps. Parce que si la CAN avait lieu en janvier 2023, ok, tu finis, la Coupe du Monde, elle se termine, un mois et demi après, tu es à la CAN, ok, tu joues, il n'y a pas de souci, donc tu es dans la dynamique de la compète. Mais tel n'est pas le cas. Donc finalement, tout le projet qui a été mis en place par la Confédération africaine de football en accord avec la FIFA pour éviter l'enchevêtrement des calendriers entre l'Europe et l'Afrique, par exemple, au niveau des grandes compétitions, eh bien finalement, il y a eu le Covid, ok, mais ça a été chamboulé pour revenir aux années paires. On a dit année impaire et on joue en été. Finalement, on revient aux années paires et on joue en hiver. Donc, une nouvelle fois, cette guerre avec les clubs européens, c'est comme si, pour moi, elle est à nouveau déclarée. Si tu joues la CAN 2024 encore en hiver, ça veut dire que c'est une CAN toujours à 24 nations, bien sûr. Tu vas mobiliser des joueurs. 2023, bon, les clubs européens seront heureux parce qu'il y aura... Il n'y a rien en Afrique, mis à part le CHAN, c'est ce qu'on appelle
du monde.
C'est le championnat d'Afrique.
Hein? Ça bloque, il y a la Coupe du Monde.
Non, c'est en 2022. C'est en 2022, la Coupe du Monde.
Oui. Non, mais. Okay. Je te parle juste après, parce que après, on va basculer. Et justement, la bascule n'est pas bonne pour nous.
Non, mais je dis bien, on sera en novembre 2022 et janvier 2023. C'est ça qui est annulé pour 2024.
Oui.
C'est ça.
Oui.
J'ai bien compris ça.
Oui.
Donc, je te dis, voilà.
Donc, il y aura un trou béant.
C'est terrible, il n'y aura plus rien.
Ben oui, c'est ça que je dis.
Non, pour les équipes qui ne sont nulle part, ils s'en foutent des équipes qui ne sont plus là. Tant qu'il y a la Coupe du Monde qui va primer.
Ben voilà.
C'est tout.
Tant qu'il y a la Coupe du Monde.
Ah ben pas uniquement que la Coupe du Monde. Il y a la Ligue des Champions, l'Europa League, la Ligue Conférence, ça veut dire qu'il y aura toutes les compétitions africaines. européenne et africaine aussi, la Ligue des champions africaine.
Mais on parle des sélections nationales, donc on pensait que
non, l'équipe
de Syrie,
il n'y aura
plus rien du tout.
Parce que le projet,
il n'y aura rien pendant un an.
Ta sélection n'aura rien pendant
mais
un an.
Mais les joueurs sont actifs, c'est ce que j'essaie de te dire.
Ah oui, non, mais heureusement.
Voilà, c'est une bonne chose.
Il faudra regarder. Non, mais pendant la période de Coupe du Monde, il n'y aura personne qui est actif. Hein. Je ne sais pas s'il y a le règlement qui a mentionné, c'est le nombre de joueurs qui sont pris ou comme ils font dans les pays là, où tu fais ta Coupe du Monde et comme ils font au rugby. Hein.
Oui.
Tu fais le tournoi de 5 nations, les équipes jouent quand même. Là, ils peuvent faire ça aussi. Tu peux jouer ta Coupe du Monde et le championnat continue aussi.
Oui, le championnat continuera.
Ah bon, officiel
oui.
Ça
bah oui, le championnat continuera.
Même la Ligue des Champions.
Toutes les compétitions européennes et africaines et pendant toutes les compétitions sportives.
Ouais. Non, il y a un arrêt quand même.
Non, je pense pas.
Non, les grands championnats. On va pas priver les grands clubs anglais de leurs joueurs. Non. Il y aura, je sais qu'il y a, une indemnisation qui est prévue par la FIFA, parce que le fait d'avoir décalé cette Coupe du Monde de l'été vers l'hiver fait que ça chamboule toute l'organisation mondiale. Hein, c'est une première depuis que la Coupe du Monde existe, c'est-à-dire c'est la première fois depuis 1930. Voilà, ça veut dire que ça va faire quasiment un siècle, puisque la Coupe du Monde, la première a eu lieu en 1930 en Uruguay, à l'époque où les joueurs partaient par bateau et puis ils mettaient un mois en mer.
Bien sûr, tout à fait.
Ouais, aujourd'hui, en quelques sortes d'avion, tu arrives, t'es bien préparé.
C'est clair.
Alors, Sofiane. Non, mais logiquement. Non, mais je crois que celle-là, je.
Il est au bout de Sofiane.
Ah, ouais. Je pense qu'il est temps que ce soit la dernière de la saison. J'ai du mal. Non, c'est parce que habituellement, Fodil, quand il se mettait par là, c'était plus facile pour moi. Et quand Sofiane il est là, donc il se mettait en face. Et toi, tu es là. Alors quand Nawel arrive et Nawel se met là, du coup, Sofiane il se décale. Donc là, voilà, je me retrouve dans une configuration qui fait que.
T'es d'accord, Sofiane?
Oui, je suis d'accord.
C'est bien. Alors au niveau des clubs, que dit le règlement justement?
Pour l'instant, j'ai pas.
Non, les championnats ils seront à l'arrêt. Hein.
Normalement, oui, ils seront
parce
à l'arrêt.
Parce que la FIFA là-dessus, quand il y a sa Coupe du Monde, elle ne veut rien comprendre, savoir. C'est ça, Coupe du Monde.
Monsieur qui n'a rien. Ouais. C'est clair.
Ouais.
C'est clair.
Ah oui, ma sœur.
Meilleur joueur du monde. Ouais. Le club, il est payé pour quoi?
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la Coupe du Monde va se terminer avant Noël. Ouais. Parce qu'il y a.
Le Boxing Day aussi.
Hein?
Le Boxing Day, il va se
terminer. C'est par rapport au Boxing Day, justement. Parce que la Coupe du Monde de football doit se jouer avant Noël. Parce que le Boxing Day, tout le monde sait que c'est le 31 décembre et le 1er janvier. Ouais, et ça, les Anglais, tu ne peux pas leur retirer.
Trois matchs en 5 jours.
Ouais.
Je crois que c'est ça.
Donc, la Coupe du Monde, je crois qu'ils vont même réduire son temps. Puisque l'avantage, c'est qu'au Qatar, les stades, ils sont vraiment très, très proches. Ils peuvent enchaîner les rencontres.
Non, t'es fou, toi. C'est pas la distance qui va faire ça. C'est plutôt la fatigue, oui. Tu peux pas. T'as 2 jours, 3 jours entre les matchs, au minimum ça. C'est,
ouais.
2 jours, tu l'auras pas. 3 jours, c'est le minimum.
Ah bon?
Ah oui, 3. 3 jours de récup obligatoirement.
Faut dire, regarde bien l'organisation de cette Coupe du Monde. Elle commence, je sais qu'elle commence au mois de novembre, vers le 18 novembre à peu près. Mm-hmm. Hein, pour se terminer entre le 20 et le 24 décembre. Grosso modo, c'est ça?
Attends, je vais te confirmer tout de suite.
Très bien. Justement, le temps qui me confirme. Alors, Nasser, justement, je reviens vers toi sur cette histoire de vide calendaire. C'est très important parce que on ne se rend pas compte de l'impact que cela va avoir sur une sélection comme l'Algérie et sur comment Belmadi va motiver l'arrivée de Aouar et le retour de Delors, par exemple. Je m'explique. On vient de le dire, la Coupe du Monde, elle a lieu dans quelques mois. Juste après, si on avait respecté le calendrier, on va dire 3 semaines après, tu avais un démarrage de la CAN en Côte d'Ivoire qui démarrait sur janvier-février. Donc les joueurs, tu les mets sous pression pour les qualifs. Là, il y a un changement. La Côte d'Ivoire n'est pas prête. La CAF décale sa compétition à 2024. La Coupe du Monde se termine. Toi, tu es qualifié pour cette CAN 2023, mais tu ne la joues qu'en 2024. C'est-à-dire que tu vas avoir un trou de 1 an.
Mais tu vois, les équipes, il n'y a pas.
Quand on parle de matchs amicaux, les matchs amicaux, il faut trouver des équipes avec qui jouer.
Bah, tu vas les trouver quand même.
Oui, non, mais. Oui, mais attends, tu vas trouver des.
Bah, tu vas trouver toutes les équipes qui ne sont pas qualifiées. Tu as l'Italie déjà. Tu as plein de pays qui ne sont pas qualifiés.
Oui.
tu peux les trouver. Mais au-delà de ça, tu as des joueurs qui vont se reposer. Tu penses pas au repos un peu?
Coach. Tu m'as sorti une phrase que j'ai toujours retenue.
Ouais.
Tu m'as dit, viendra le jour où dans les clubs, il y aura 40 joueurs et ils vont te faire proposer des matchs tous les jours.
C'est clair. Bah, c'est ça le business, il va arriver là-dessus. Hein. Tu auras un match tous les jours, ce sera un feuilleton, Dallas, ou ce que tu veux. Tu auras tous les jours un match. Et on changera les coachs, on changera les joueurs, on n'aura rien à faire tant qu'il y aura le business qui rentre. Non, mais au-delà de ça, c'est clair que les joueurs qui sont en surcharge depuis des années, là, parce qu'il faut bien penser aussi que les blessures ne viennent pas par hasard, eh ben, tu auras des matchs amicaux, tranquilles, ou tu auras des mecs qui seront au repos, et ça ne leur fera pas de mal. Hein.
Mmh. Ouais, d'accord.
Plutôt.
Ok, mais, très bien, le repos, oui.
Ils s'en foutent de. T'imagines la FIFA qui va s'occuper de tes joueurs qui ne jouent pas. Eux, ils vont s'occuper de ceux qui jouent, des pays qui jouent, parce que l'argent est là, les milliards, ils vont rentrer, les milliards.
Ah, eh oui.
Et c'est encore des milliards encore.
Pour les dates, la Coupe du Monde aura lieu le 21 novembre au 18 décembre.
Voilà, bah encore, tu vois, j'étais gentil, j'ai dit Noël. 18, ouais. Tu vois, Nasser, même pas un mois. Ouais. 21 novembre, 18 décembre.
Ouais. Ça va être tranquille, ça va être facile. Pour vous, sur les terrains, ça va être tranquille.
Oui. Ouais. C'est justement, ça laisse cette opportunité aux Anglais de faire leur Boxing Day.
Bah, tu les... pas, il ne faut pas toucher, il y a l'oseille. C'est toujours l'argent. Bah oui. Moi, j'ai toujours l'argent. Tu te rends compte, le Boxing Day, trois matchs en 5 jours, tu ne vois pas les télés qu'ils mettent là-dessus. Tu leur enlèves ça. Mais, tu vas créer une guerre mondiale, là. Il leur faut leurs 3 matchs tous les 5 jours. Il y a Noël, jour de l'an, pour que ça crée de la cohésion. Bref. Ouais, bah, t'as vu ? Même ça, ils ont été capables de te l'imposer. Ouais.
Ça prouve une chose, c'est que
l'argent est roi.
C'est que dans cette histoire, on a pensé au grand business européen, comme le championnat anglais, qui est le plus rémunérateur de tous les championnats, même au monde, hein, quasiment en termes de football. Bien sûr, on pense à FIFA. Et dans l'histoire, maintenant, vous allez rire un peu. Que fait l'Afrique dans l'histoire?
Ils s'en foutent, non.
Je savais que tu allais me dire ça.
Mais moi, tu parles de l'Afrique. Bon, après, on peut être les porteurs de la misère. Entre parenthèses. Mais dans le football, ils n'existent pas, eux. C'est l'Europe et l'Europe et l'Europe. C'est eux qui ont l'oseille. On parlait tout à l'heure des clubs. C'est quoi le budget d'un club en Algérie, à ton avis? En gros.
Un milliard.
En quoi?
Un milliard de dinars.
100 types de dinars.
Un milliard de dinars.
Ça dépend de chaque club.
Ouais,
allez, ça dépend le capital de chaque club.
En gros, je vais mettre une moyenne, mais qui n'existe pas du tout. On va dire entre 2-3 millions d'euros. 2-3 millions d'euros.
D'accord.
Tu vois, je pense pas. Parce même que 2-3 millions d'euros, je pense que les clubs seraient déjà.
Pardon ?
Non, 2-3 millions, je pense pas. 2-3 millions d'euros, je pense pas en Algérie.
Je sais que si. Bah, comment ? Je peux le chiffrer tous les jours, moi.
Comment ?
3 millions d'euros tous les jours, et c'est facile en plus.
Pas plus. Tu parles de quel club ?
N'importe lequel.
Il y a certains clubs, je pense qu'ils ne les ont pas.
Ils ont entre 60 et 70 milliards de dinars, le budget d'un club. 70 milliards, ça fait 3,5 millions d'euros.
Donc, c'est ce qu'ils déclarent. Hein, c'est ce qu'ils déclarent.
Oui.
Il y a une grande différence entre ce qu'ils déclarent et ce qu'il y a vraiment dans le club.
Oui, ça c'est trop chose.
Il y a un fossé entre leurs
déclarations. Attends, je vais t'expliquer une chose.
Je t'écoute.
60, 70 milliards, c'est largement au-dessus. Pourquoi tu crois que les joueurs sont payés? Non. Ils sont payés, les joueurs.
Les joueurs, ils sont pas payés.
Bah alors voilà, déjà le budget va tomber. Qui donne alors? Qui prend? Qui ben, prend alors?
Mais ceux qui prennent, c'est ceux qui sont à la présidence.
Oui, voilà. Les gens sont pas payés, les entraîneurs sont pas payés.
Ouais.
Très peu. Donc il est où le chiffre que tu me sors là?
Non, parce que quand tu me dis 70 milliards,
parce 70 que chez nous on a bien parlé en milliards. Mais là, non, c'est de l'argent virtuel, attention.
Dans un problème, c'est pas, excuse-moi, c'est 3 millions, 4 millions d'euros, tu vois, 4 millions d'euros.
Si la GSK avait 3 millions d'euros, tu penses qu'il y aurait des joueurs qui sont en CRL?
En quoi?
Est-ce que tu penses qu'il y aurait des joueurs qui ont déposé leur.
Pour
récupérer leur argent?
Ouais.
Je pense pas. S'ils avaient 70 milliards, je pense qu'ils auraient pu régler 8 milliards rapidement pour participer à la Ligue des Champions. Les clubs, non?
Non, c'est pas ça du tout l'histoire.
Coach, je marque une dernière pause. Tu réponds à Odile. Il y a aussi le dossier handball pour finir l'émission. Ok, à tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Ah, moi, le budget.
On y arrive, non, mais 3 millions d'euros, on y arrive, sans problème.
Les budgets en centimes, ils me font rire.
T'as vu?
Nous sommes en 2022 et on parle encore en centimes.
Bien sûr. Bah, c'est intéressant parce que des fois, c'est là-dessus qu'ils vont te t'arnaquer.
Ben oui, c'est une arnaque, les centimes.
Il faut lui demander, voyez, ça fait combien de billets de 1000 dinars? Comme ça, tu vas me faire comprendre. C'est combien de billets de 1000 dinars? Quand il dit 160 000 ou 16 millions ou 1 million 6, il sort des chiffres, tu te dis, attends, là en francs on comprend ou en euros on peut comprendre, mais vous, comment vous... Et si tu dis ce chiffre-là, je lui dis, mais non, je t'ai jamais dit ça, je t'ai dit ça, moi. C'était pas en centimes, c'était un. Bref.
Bon.
C'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure entre ce qu'il déclare et ce qu'il y a dans la société.
Oui, oui, oui.
Bien sûr.
Parce que, ouais, parce que peut-être que ce que tu as donné, Fodil, c'est la valeur du capital social, on va dire.
C'est ça, c'est exactement ça. Le million dinars. Ouais.
Mais on sait très bien que les clubs sont sous perfusion étatique.
C'est ça, complètement
le terme. Le peu de sponsors, on n'a pas véritablement ce qu'on appelle des entreprises dites. Un peu comme ici, genre...
J'ai eu plusieurs joueurs, ils sont venus me voir, plusieurs joueurs que je connais très bien avec les années. Ils m'ont dit, coach, quand nous on fait la grève, c'est parce qu'on touche pas nos salaires, on touche rien. On touche entre 4 et 5 mois de salaire par an. Et les 7 mois, ils sont dans la balance pour pouvoir être libérés.
Non mais...
Tu comprends? Pour pouvoir être libérés.
Ah, carrément.
Ben oui, c'est ça les 7 mois. Et les 7 mois, ils sont acquis pour le dirigeant.
Exactement, c'est ça. Ça veut dire qu'ils signent un contrat de une année.
Ouais.
Ils touchent les 6 mois en avance quand ils signent leur contrat.
C'est 3.
Non, mais c'est souvent maintenant, c'est 6 mois.
Non. Ah bon?
Ouais, souvent, c'est 6 mois. Regarde des joueurs de la GSK, ils ont commencé à faire grève au bout du 6e mois.
50 millions, donc c'est normal.
Voilà. Et ensuite, au bout du 6e mois, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à négocier avec les présidents, leur indiquant, si vous voulez avoir votre lettre de libération gratuitement, vous cédez les 6 mois. Ça veut dire que les 6 mois vous coûtent votre contrat.
C'est ça.
Voilà.
C'est savoir que dans les comptes, dans les comptes, mais Mohan, dans les comptes, il est justifié comme quoi que le mec a touché son année complète.
Donc, c'est des faux bilans.
Bah oui.
Avec les remerciements de la maison.
En gros, on est là-dedans.
Ouais. Allez, le standard. Bonsoir, bienvenue.
Allô.
Oui, bienvenue.
Salut, c'est Karim, ça va?
Ouais, Karim, quelle ville?
À ton avis?
Creil. Karim, Grenoble, non?
Non, Creil. Non, non.
Ah oui, pardon. Oh, qu'est-ce que je raconte? C'est Abdelkrim qui est à Grenoble et Karim de Creil. Karim, Karim, supporter de l'entente de Sétif.
Ouais, supporter algérien tout court. L'entente, oui, mais algérien. Allez, c'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme il a dit coach, ouais, de 2-3 millions officiellement. Officiellement, tu sais, les sacs poubelles de 100 litres, ça marche bien là-bas.
Voilà. Ah oui, j'ai raison.
Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est que, par exemple, comme il t'a dit, les salaires, 6 mois. L'autre, il n'a pas été payé depuis 4 mois parce que, logiquement, au niveau des règles FIFA, il peut résilier son contrat unilatéralement.
Ouais.
Tu pars sous le contrôle de coach. Hein.
C'est ça.
Voilà. C'est mais le problème, c'est que, voilà, ils lui disent dans 6 mois, le 3 mois, l'autre 6 mois, il lui doit 6 mois, mais quelquefois, ils ne s'entendent pas sur ce qu'il lui doit.
D'accord.
C'est ça.
Parce que lui sort le papier, lui dit, non, comme il l'a dit tout à l'heure, non, ça fait un an que t'as été payé.
Ouais.
Et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a des litiges. Et c'est ce qu'ils ont dit récemment, je sais pas si vous avez entendu, que la FIFPro déconseille aux joueurs d'être signés en Algérie.
Absolument. J'ai lu cette info.
Effectivement, il a raison. Oui.
Ouais. La FIFPro.
Il déconseille aux joueurs de signer en Algérie parce que ça, après, ça va à l'ambassade, ça va à la TAS, ça va je sais pas où. Ça va à Lausanne, ça va, je sais pas où, à Genève.
C'est en Grèce et en Bulgarie, c'est pire chaud aussi. Hein.
Bulgarie, je crois, et je sais plus. La Chine.
En oui. Grèce aussi.
La Chine.
La Grèce.
La Chine, ouais. Il y a 6 ou 7 pays, je crois qu'il y a même, je sais pas ce qui passe sur un mail, le Brésil.
Ouais.
La Bulgarie ou la Roumanie, je sais pas un des deux. La Chine. Mais ils parlent pas des Marocains et des Tunisiens, non, ils sont pas dedans, ou les Égyptiens, ils sont pas dedans.
Mais c'est ça qui me surprend quand même, Karim. C'est vrai qu'un pays comme la Chine, qui veut développer son football, qui est quand même une très grande puissance économique mondiale, et ça parle de problèmes de salaire des joueurs en Chine.
Ouais, mais coach, je sais pas si t'as remarqué en Chine, quand ils ont commencé à ouvrir un peu le monde, un peu s'ouvrir, entre guillemets. Ils ont donné, t'as vu les mecs qui sont tous partis en Chine parce qu'on leur offrit quoi? 20, 30, 40 millions par an.
C'est ça.
C'est du net.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment versé les salaires? Parce que moi,
tu crois ce qu'on te dit, mais est-ce que c'est vrai là, en réalité?
C'est exactement ça.
Et je sais pas si tu regardes en France ou pas plus regarde au Milan AC. T'as des actionnaires chinois soi-disant qui ont de l'argent. Regarde le Milan AC, ils ont failli se retrouver, je dis pas en dépôt de bilan. Ils ont été obligés de reprendre le fonds d'investissement qu'avait prêté aux Chinois. C'est lui qui a repris le club parce qu'il pouvait pas payer les intérêts d'emprunt. Le Chinois pouvait pas payer les intérêts.
Ouais.
Avoir un actionnaire chinois, c'est dangereux pour moi. Personnellement, pour moi, c'est dangereux.
Alors Karim, pour les pays, nous avons l'Algérie, nous avons la Chine, la Grèce, la Libye, la Roumanie, l'Arabie Saoudite et la Turquie.
Ah, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les joueurs algériens, c'est un peu...
Ah oui, non mais on découvre des choses.
Ah oui, 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 il y a cette pays, la Libye, ça m'étonne pas, je sais pas s'ils ont un championnat, mais bon.
C'est FIFA Pro.
Ah bon?
Ah oui, c'est FIFA Pro.
Non,
c'est un communiqué de FIFA Pro.
Oui, oui, carrément.
Mais la Chine, pour moi, bon, après la Chine, comme tu dis, l'argent, comme on dit, ne fait pas le bonheur, ou fait roi, mais ne fait pas forcément le bonheur. Mais avoir un actionnariat chinois, regarde l'Inter de Milan, ils ont été obligés de vendre Hakimi et Lukaku.
Oui. C'est vrai.
Pourtant, ils ont un actionnaire chinois, après, je peux pas citer le nom de la marque, qui est pas n'importe quoi, mais est-ce que la société appartient vraiment à la personne qui reprend le club?
Sauf qu'ils sont malins, ils ont récupéré Lukaku à moitié prix.
Ah, non, à près de 10 millions.
Oui, voilà. Ils l'ont vendu à combien? 10
millions? Oula, 115, je crois.
Voilà. Ça veut dire qu'ils sont très malins.
Ouais. Bah ouais, maintenant, le mec, il a 29 ans, peut-être qu'il sera plus au niveau qu'il avait il y a 5-6 ans. Non, ils ont été malins, mais bon, avoir un actionnariat chinois et être obligé de vendre tes joueurs à chaque fois pour avoir une balance positive, voilà quoi.
Ouais, c'est vrai. Bah écoute, Karim, merci pour ces détails.
Merci.
Bonne soirée.
Excuse-moi, j'ai rien contre les Chinois, mais je te donne juste un exemple hein, pour te dire, là, on peut avoir beaucoup d'argent et pas forcément payer ses joueurs.
Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est une très très bonne analyse, oui. Ce n'est pas uniquement le fait de montrer un petit peu ce côté nabab de certains dirigeants, mais au final, quand tu payes pas, bah oui, tu peux faire le nabab, quoi. Bien sûr.
Merci. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a que 7 pays, mais bon, ça m'étonne un peu.
Ouais, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Ouais.
Il y en a un peu plus, quoi.
Ouais. Bonne soirée, Karim.
Merci à vous.
Merci,
bonne soirée.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bon. Bah décidément, hein, ça paye pas. Hein, oh là là.
Allez. C'est un communiqué qui a été publié il y a plus de 2 semaines.
Ouais. Non, c'est parce que j'avais lu un communiqué de la FIFPro qui déconseillait aux joueurs de signer dans les clubs algériens.
FIFPro, c'est quoi?
C'est FIFPro.
C'est FIFPro. Alors la FIFPro, c'est le syndicat international des footballeurs professionnels.
C'est Balouz.
Ah non, il n'y est plus, à une époque, il y était, au tout début, je me souviens.
C'est la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels.
Ouais.
Qui a été créée en 1965.
Ouais. C'est vieux comme le monde.
C'est ça. Ouais. Ouais.
Bon, on a un sujet pour finir quand même, le handball, Fodil. Alors pourquoi le handball? C'est parce que je me suis intéressé à la partie jeu méditerranéen championnat d'Afrique où là aujourd'hui ça a été la grande chute, la grande culbute du handball algérien. Aujourd'hui il est 5e en Afrique. Moi depuis mon enfance j'ai toujours connu l'Algérie dans le top 3, c'est-à-dire puisque il y avait de très grandes nations que sont l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, et aujourd'hui on est on a culbuté de 2 places supplémentaires.
Exactement. Pour les résultats des Verts, depuis les Jeux méditerranéens jusqu'au championnat d'Afrique, l'Algérie a disputé 10 matchs, 5 victoires, 4 défaites et un match nul face à la Macédoine du Nord. Au classement des Jeux méditerranéens, l'Algérie est classée 5e sur les 10 places en jeu. Et elle occupe également actuellement au championnat d'Afrique la 5e place du championnat sur 8 places qui sont en jeu.
Et au niveau des résultats, est-ce que tu as les résultats chiffrés des matchs? C'est ça que je voudrais voir, parce que les victoires, si c'est contre des petites équipes.
Ouais. La récente victoire, c'est face à la Tunisie.
À la Tunisie.
La plus belle victoire, c'est face à la Tunisie.
Oui, parce que la Tunisie, c'est quand même une référence. Hein. Bon, après, les Tunisiens aussi, le temps qu'ils reviennent. Aujourd'hui, il est clair que c'est l'Égypte qui a un TGV d'avance, parce qu'ils ont mis en place une nouvelle génération de handballeurs qui arrivent, qui sont très puissants, qui sont très rapides. Et que même les clubs européens recherchent aujourd'hui. Alors qu'à une époque, je me rappelle, c'était la Tunisie qui exportait le plus grand nombre de handballeurs, notamment à l'époque ici en France, principalement à Montpellier, qui est un très grand club, puisque Louis Nicolin a réussi quand même à mettre en place à la fois il et les féminines et le handball et même bien sûr l'équipe de Montpellier Héros. Et d'ailleurs, en parlant de Montpellier, c'est peut-être une affaire anecdotique que j'étais peut-être oublié. Je ne sais pas si j'en avais parlé au cours d'une de mes émissions. C'est effectivement à l'époque, il y a quelques temps, le décès de Fawzi Mansouri.
Mais ce que tu expliquais sur le handball, le handball est lié avec le football, attention, hein, comme le basket, hein, les trois sports co, les trois sports co rois dans le monde, même dans le monde. Nous, ce qui est pas normal, c'est que nous, on devrait avoir aussi le basket. On est bon au football. Je parle. Les handballeurs, on a une équipe. On a eu des titres. Mais le basket, on en a vu très peu, tu vois. Et c'est pas normal. Normalement, ces trois sports-là sont liés. Les sports courts, tu vois, sont très liés. Et bref, ça s'explique. Maintenant, moi, la version que j'ai des gens qui étaient en place là-bas, c'est que ils ont quand même 6-7 blessés, tu vois. Des joueurs très très importants.
Ouais.
Marouze, là, le garçon métis là, qui est très bon, le gaucher là.
Oui, Monsieur Berkous.
Voilà.
Ah bah oui, c'est sûr que s'il lui manque.
Voilà, il a joué, mais il a complètement été blessé. Donc il y a eu une équipe très compliquée, très compliquée. Et c'est ce qui fait que malgré cela, ils ont fait une Coupe d'Afrique là, mais ils sont quand même qualifiés pour la championnat du monde. Hein. C'est surtout ça le pouvoir. Hein. Parce que moi j'étais avec des Rois quand ils ont regardé le match de classement, pas ce match là, le match d'avant.
Oui, oui.
Quand l'Algérie perdait, au moment où on a marqué le but victoire à la fin, la télé s'est coupée. Et je te jure.
La télé. Alors, ça veut dire que.
Comme
on aurait dû faire au foot.
Voilà. Ben oui, la télé s'est coupée. Incroyable. Et j'ai su le résultat le lendemain.
Ouais. Nasser, juste pour dire à quel point nous sommes visionnaires. Avant que Faudil me donne une info, il faudrait que tu le saches, c'est qu'à une époque, nous sommes partis commenter Algérie-Zambie, match éliminatoire de Coupe du Monde, le jour où Saïfi avait marqué, tu te souviens, Nasser, et que dans la tribune, j'avais dit, j'avais parlé du décalage horaire et que le règlement FIFA fait que si jamais tu dépasses par exemple minuit, l'adversaire peut demander à rejouer le match. Et donc, devant mon micro, j'ai juste dit, Kim était ici à Paris, j'ai dit non, mais attention Kim, si jamais l'horloge dépasse les minuit, nous risquons
d'avoir des réserves.
D'avoir des réserves techniques par le biais de la Fédération zambienne.
Il a fermé l'horloge.
Et lorsque j'ai sorti cette phrase, immédiatement, le responsable du stade a carrément coupé l'horloge du stade. Donc, il n'y a pas d'horloge, il n'y a rien. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire contre le Cameroun.
Tu nous as manqué face au Cameroun.
Exactement, je le pense, oui. Sur ce coup-là, je pense que je l'aurais fait. Oui, Faudil.
Alors, concernant les résultats, ce que tu m'avais demandé, c'est que l'Algérie a battu la Turquie, 32-27, lors du jeu méditerranéen. Elle a battu aussi la Grèce. 35-25 et lors des jeux des championnats d'Afrique, on a battu le Gabon 25-23, l'Égypte nous a battu 34-19. Et concernant les deux derniers matchs, on a battu la Guinée et le Congo.
D'accord.
Et on se retrouve en mondial en compagnie du Maroc, du Cap-Vert, la Tunisie.
Ouais. Et de l'Égypte forcément.
Voilà, de l'Égypte bien sûr, tenant du titre.
Mais oui. très bien. Non, mais c'est important comme précision à apporter. Ben, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que nous arrivons au terme de cette émission, de la saison. Il y aura une grosse actu à la rentrée, à tous les niveaux, les différents championnats, les Coupes d'Europe, la Coupe du Monde, forcément, qui sera le moment du Graal pour nous. Et puis... on aura le loisir de se retrouver avec des émissions filmées pour certains. On verra en fonction de l'actualité.
Comment va Noël?
Noël, elle va bien. Noël, elle va bien.
Ah bah, c'est ça.
Voilà.
On l'a pas vu.
Elle est venue une fois, après son retour d'Algérie. Voilà. Elle est venue. On a passé également, on a fait une belle émission. Je crois que Faudel était là aussi.
Oui, j'étais là, oui.
Exactement. Et puis, là, pour la rentrée, on va retrouver une configuration qui va apporter une nouvelle touche à cette émission. Merci, et puis au plaisir, tout simplement, de vous retrouver, comme dirait l'autre, dans de très très bonnes dispositions pour cette saison 2022-2023. Je le sais qu'elle sera extrêmement riche.